On est chacun à distance et on vous accompagne comme chaque soir jusqu'à 20h. Soyez les bienvenus à la une ce soir. C'est le sujet qui fait débat, une appli de traçage numérique pour accompagner la fin du confinement. On va y venir dans un instant, dès le début du journal de 18h. Tracking, date prolongée du confinement, ce sera évidemment sans doute les sujets qui seront abordés demain par Emmanuel Macron qui doit parler à 20h. On va en parler à édition spéciale demain soir, on va en parler avec les grandes voix ce soir à 18h20. Eh bien, un titre, une chanson en hommage à nos héros du quotidien. Écoutez cette chanson.
Je veux offrir quelques phrases à ceux qui passent et puis s'effacent.
Il fait partie des 350 personnalités qui chantent sur ce morceau. Patrick Bruel est avec nous ce soir. Il est notre invité à 18h20 et puis à 19h30. On s'intéressera à vous, à votre vie de famille, à la maison, à vos rapports avec vos enfants et à votre couple. Comment ça se passe à la maison? On va en parler avec une sexologue, et un psychologue. Vos témoignages bien sûr ce soir au 39 21. Voilà pour le programme. Nathalie nous rejoint dans un instant, soyez les bienvenus.
Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
L'enjeu, c'est vraiment que ça ne serve que quand quelqu'un dit je suis malade, mais pas qu'on centralise quelque chose.
Serons-nous suivis à la trace bientôt? Une application dans nos smartphones pour détecter d'éventuels contacts avec des malades. Le gouvernement travaille sur un scénario et cela pose pas mal de questions. Les détails dans quelques secondes. Pour l'heure, l'essentiel, c'est de maintenir un confinement strict, disent les experts du conseil scientifique. On verra avec le docteur Jimmy Mohamed qu'à peine 15% de la population serait aujourd'hui immunisée. Encore bien trop peu pour déconfiner. Dans ce journal aussi, la France officiellement en récession.
L'impact économique, il est massif, il est très négatif, il est brutal, il va se traduire par un choc économique que chacun imagine.
Le Premier ministre a tout à l'heure, le PIB s'écroule de 6% en un trimestre. Les Français sous confinement, on nettoie à la maison, on désinfecte, mais attention aux produits ménagers, les cas d'intoxication se multiplient. Et puis heureusement, il y a de bons côtés, dans ce confinement, il y a ces moments en famille.
Regarde des dessins animés le soir, on lit beaucoup.
Parfois on joue au Cluedo, on fait des puzzles et des jeux de cartes.
Tranche de vie de ces vacances scolaires parfois à la maison avec les enfants. On verra ça à la fin du journal. La Bourse de Paris ce soir à l'équilibre à 4442 points. La tendance météo, Anissa.
Avec une journée encore plus belle demain, une journée printanière, voire même sur certaines régions estivales et des températures bien au-dessus des normales de saison. Tous les détails à la fin du journal.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Avec vous Sébastien Krebs.
Et d'abord un témoignage. On vous donne chaque soir les chiffres de l'épidémie, le nombre de morts, d'hospitalisations. On oublie parfois de vous dire que des milliers de patients sortent heureusement guéris de l'hôpital. Près de 20 000 déjà, souvent après plusieurs jours de réanimation. Et certains se réveillent loin de chez eux parce que transférés dans une toute autre région. C'est le cas de Marc que vous avez pu joindre sur son lit d'hôpital, Charles Guyard.
En effet, il s'appelle Marc Proust, il a 68 ans et il vit à Reichstadt, non loin de Strasbourg. Le 26 mars, le premier TGV médicalisé l'a emmené avec 19 autres patients dans les Pays de la Loire. Pour lui, le voyage s'est terminé en Vendée et ça, il l'a constaté assez vite en ouvrant les yeux.
Je suis conscient que je suis à La Roche-sur-Yon parce qu'effectivement, je ne vois pas la cathédrale de Strasbourg. Et puis, quand j'ouvre un petit peu la fenêtre, je sens l'air marin, les mouettes.
Sorti du coma le 3 avril, si Marc a donc rapidement compris qu'on l'avait transféré loin de chez lui, il n'avait en revanche aucune idée du temps passé.
Ma fille m'a dit, papa, tu sais que tu étais dans le coma artificiel plus de 10 jours. Moi, je comptais que c'était 1 ou 2 jours. On n'a plus la notion du temps.
Un temps qui s'éternise pour la famille, car c'est aussi cela la réalité du transfert. D'un côté, on se bat pour la vie, de l'autre, contre l'angoisse à 800 km de là. Anne, l'une des filles de Marc, n'est pas encore totalement soulagée.
Je serai rassurée le jour où il sonnera à ma porte, qui me ramènera des confitures. Là, ce sera reparti pour des nouvelles aventures.
De nouvelles aventures pour Marc Proust, c'est d'abord un retour chez lui, normalement programmé pour demain par ambulance. Et puis, promet-il, il reviendra dans l'Ouest l'automne prochain.
J'espère venir voir le départ du Vendée Globe et de passer dans le service des différentes personnes que j'ai rencontrées ici pour leur ramener un petit cadeau, les remercier.
Et en plus de Marc, 3 autres patients du Grand Est ont été transférés à La Roche-sur-Yon.
d'Europe 1 dans l'Ouest, ce patient qui pourra donc bientôt rentrer chez lui dans le Grand Est où le pire semble passer, c'est ce que dit le professeur Delfrécy qui préside le conseil scientifique. On y reviendra dans le journal de 19h, conseil scientifique qui a rendu public ses recommandations. On ne pourra pas entamer le déconfinement tant que les services de réanimation seront saturés et tant que le nombre de tests de dépistage ne sera pas suffisant. En attendant, c'est un confinement strict qui doit continuer, mais le gouvernement travaille déjà sur le possible scénario de l'après. Et l'idée d'une application sur smartphone fait son chemin. Elle a même déjà un nom, Stop Covid. Ève Roger, le ministre de la Santé, prépare lui-même les esprits à cette application. L'idée, c'est que notre téléphone puisse nous avertir si on croise un malade, c'est ça?
Oui, c'est ça. Vous aurez une alerte qui signifiera que vous avez croisé de près, pendant une période assez longue, une personne contaminée. Ainsi, vous pourrez aller vous faire tester et éventuellement vous isoler. Et ça marche aussi dans l'autre sens. Si c'est vous qui êtes malade, tous les gens que vous aurez rencontrés dans les 14 derniers jours seront prévenus. Et ça, c'est possible grâce à la technologie Bluetooth que beaucoup d'entre vous connaissent, qui permet d'identifier les appareils à proximité. Quand deux personnes se croisent, par exemple, le téléphone de l'un enregistre les références de l'autre dans son historique. Et tout ça, sans nom, sans adresse, tout est anonyme.
Ça pose quand même des questions. Ève, il y a des risques qu'on se retrouve suivi à la trace?
Alors, suivi à la trace, non, parce que nos déplacements ne seront pas enregistrés, pas de géolocalisation via un GPS. L'application ne saura pas où vous êtes ni où vous allez. Premier point. Ensuite, il reste effectivement plusieurs interrogations. Comment être sûr que les données restent stockées dans notre téléphone et pas installées sur un serveur central, par exemple? Là, il y a bien un risque, expliquait à midi sur notre antenne Jérôme Belloise, expert en cybersécurité chez Wavestone.
L'enjeu, c'est vraiment que ça ne serve que quand quelqu'un dit « je suis malade », que ça alerte les gens à qui il a été à côté, mais pas qu'on centralise quelque chose qui, on l'imagine, dans des pays totalitaires, pourrait être utilisé dans d'autres contextes pour savoir qui était en contact avec qui et les a vus quand. Qu'on ne crée pas une méga base de données à l'échelle nationale de qui a vu qui.
Alors ensuite, seuls 8 Français sur 10 sont équipés d'un smartphone avec Bluetooth. Alors qu'est-ce qu'on fait des deux qui restent? Et puis surtout, le gouvernement insiste bien, chacun téléchargera cette application seulement s'il le souhaite, sur la base du volontariat. Mais une étude britannique vient de démontrer que si 60% de la population ne l'utilise pas, eh bien ça ne marche pas.
Ève Roger, chef du service société d'Europe 1, tout l'enjeu c'est d'éviter une deuxième vague de l'épidémie au moment du déconfinement. Je salue le docteur Jimmy Mohamed qui est avec nous comme chaque soir. Bonsoir docteur.
Bonsoir Sébastien.
Le conseil scientifique a aussi donné un chiffre important et intéressant. L'immunité des Français, la part de la population qui a déjà été confrontée au virus et qui est donc maintenant protégée, cette part ne dépasse pas les 15%. C'est encore trop peu, il faudrait atteindre combien pour pouvoir vraiment entamer le déconfinement?
Alors, on partait sur une histoire d'immunité collective avec 60 à 70% de la population qui devrait avoir le virus pour finalement que le virus disparaisse, lié au fait que nous soyons quasiment tous immunisés et que nous ayons plus de chances de rencontrer une personne immunisée qu'une personne malade. Le problème avec ce scénario, c'est que avec les 1 à 2% de mortalité, on risque d'avoir des dizaines, voire des centaines de milliers de morts. Et donc, peut-être que ce scénario n'est pas à privilégier. Une autre hypothèse, une autre piste prônée par celle du conseil scientifique serait à un moment du déconfinement, lorsque les gens vont rentrer petit à petit dans la vie active, que le virus va naturellement recirculer, que nous aurons peut-être une seconde vague, d'identifier de façon plus précoce les personnes malades, car nous allons avoir beaucoup plus de tests à disposition, faire des enquêtes autour des personnes malades et peut-être utiliser ce système de tracking pour limiter au maximum une seconde vague, même si l'hypothèse de l'immunité collective semble intéressante, elle semble un petit peu s'éloigner, même si effectivement au jour le jour, les stratégies sont réévaluées et ce que nous disons aujourd'hui ne sera peut-être pas vrai demain.
Voilà, merci docteur Jimmy Mohamed, on comprend bien l'enjeu donc des tests et de cette application de tracking, le scénario du déconfinement qui se dessine progressivement. Docteur, vous serez avec nous ce soir dans les grandes voies et bien sûr demain à 15h sans rendez-vous, on vous retrouve avec Mélanie Gomez et chaque soir bien sûr dans le journal de 18h pour répondre à toutes les questions sur le hashtag Radio Ouverte. Autre information ce soir sur les potentiels traitements à présent. Vous savez que l'hydroxychloroquine fait l'objet d'un essai clinique à l'échelle européenne, comme 3 autres traitements d'ailleurs. On n'aura pas de résultat avant la fin avril, précise aujourd'hui l'INSERM. Et puis l'armée française touchée à son tour, le porte-avions Charles de Gaulle écourte sa mission en mer et rentre au plus vite à Toulon. Une quarantaine de cas suspects ont été détectés, des dépistages vont être menés. Ils sont plus de 1700 marins à bord. On y reviendra dans le journal de 19h.
Il est 18h10 sur Europe 1. La suite du journal avec Sébastien Krebs et vous, Nathalie Lévy.
Oui, de retour après un petit bug technique, mais tout va bien. Bonsoir à vous, merci de nous être fidèles sur Europe 1. Alors la question des matériels de protection, toujours très vive, là encore, et en particulier, Sébastien, pour ceux qui travaillent.
Oui, les petits commerçants, par exemple, qui n'ont parfois rien pour se protéger face aux clients qui défilent dans leur boutique. Épicier, buraliste, primeur, boucher, fromager, la Confédération des commerçants de France réclame des livraisons de matériel en urgence. Écoutez Francis Palombi, son président.
Nous sommes inquiets par rapport aux très petites entreprises que nous portons. Ce sont les magasins alimentaires, ce sont les marchés quand ils ont la chance d'être autorisés, ce sont les buralistes, ce sont également les taxis. Parce que les taxis, on les réquisitionne dans certains cas pour faire du transport de malades. Et pour autant, il n'y a pas de protection, pas de masque, pas de film transparent entre le chauffeur et les passagers. Et c'est la vie de salariés qui sont en jeu, de commerçants. C'est pour cette raison que nous appelons l'État à se mobiliser pour, d'une manière urgente, très urgente, eh bien, permettre à ces commerçants de se protéger ou de protéger leurs salariés. Et j'insiste lourdement pour les taxis. Pour les taxis, c'est pas urgent, c'est hyper urgent.
Le président de la Confédération des commerçants de France qui répondait à Carole Ferry. Et puis sur ce sujet également, la situation se tend chez Amazon. La CFDT appelle à la grève et le syndicat solidaire déclenche une action en justice pour demander la fermeture des 6 entrepôts logistiques du géant d'Internet après des échanges infructueux avec la direction, disent les syndicats, sur la protection des salariés.
Et c'est maintenant officiel, la France est en récession, on en parlera avec Emmanuel Duteil dans les grandes voix, et d'une ampleur cette récession jamais connue depuis 1945.
Et c'est la Banque de France qui a publié ce chiffre, moins 6% au premier trimestre, l'activité est à l'arrêt, le PIB s'effondre, Emmanuel Duteil sous l'effet donc de cette épidémie.
Oui, hein. La France est le premier pays du G7 à entrer en récession. Elle vient d'enchaîner 2 trimestres de croissance négative. Et là, sur les 3 derniers mois, le repli est historique. C'est simple, c'est du jamais vu en temps de paix. Ce sont vraiment les 15 derniers jours de mars avec le confinement qui ont fait plier l'économie française. Et pour le Premier ministre Édouard Philippe, l'impact du coronavirus est...
massif, il est très négatif, il est brutal et il va susciter en France comme partout dans le monde les impacts nationaux se répondant et amplifiant encore la donne. Il va se traduire par un choc économique que chacun imagine, mais dont personne ne sait encore la totalité de l'impact.
C'est certain, hein. On sait juste pour le moment que les secteurs les plus touchés sont la construction, le commerce, les transports, l'hébergement et la restauration. On sait aussi que le mois d'avril s'annonce quasiment comme les derniers jours de mars, hein, selon la Banque de France, et donc que l'activité devrait chuter d'un tiers en France. Mais c'est impossible aujourd'hui d'imaginer la baisse de la croissance sur l'ensemble de l'année. Bercy est juste sûr que ce sera largement pire qu'en 2009 après la crise financière.
Emmanuel Duteil, donc à 18h30 pour nous en dire plus en direct dans les grandes voix.
Et les chiffres des aides accordées aux entreprises ne cessent de grimper. 700 millions d'euros distribués via le fonds de solidarité. 6 300 000 salariés désormais au chômage partiel. Nouveau record, 500 000 de plus en l'espace de 2 jours. Inquiétude qui est mondiale sur l'économie. La pandémie pourrait entraîner la plus profonde récession de notre existence, hein, dit aujourd'hui le patron de l'Organisation mondiale du commerce.
Et on reviendra d'ailleurs à 19h et puis à 19h10 aussi avec mon invité sur l'échec des Européens à s'entendre sur un plan de relance malgré une longue nuit de négociations à 19h10. Hein, je recevrai ce soir Olivier Faure, député PS de la 11e circonscription de Seine-et-Marne, premier secrétaire du Parti Socialiste.
En Grande-Bretagne, l'état de santé de Boris Johnson s'améliore, fait savoir son ministre des Finances. Et puis aux États-Unis, en pleine épidémie, la présidentielle se dessine et la primaire démocrate est bouclée. Ça y est, c'est Joe Biden qui affrontera Donald Trump au mois de novembre. Bernie Sanders abandonne la course, il l'a annoncé il y a quelques minutes.
Et Xavier Yvon, on va revenir sur cette information du jour depuis New York, dans les grandes voies également. D'abord, on retourne à la maison.
On retourne à la maison, je ne sais pas si vous avez succombé, Nathalie, à la folie du ménage.
Oui, on a le temps. Par là aussi.
Ça occupe un peu. Et puis la peur du virus surtout fait que les rayons produits ménagers sont dévalisés. On nettoie, on désinfecte tout. Mais attention, les autorités donnent l'alerte. Les cas d'intoxication se multiplient, notamment chez vous, dans le sud-ouest, Stéphane Place.
Oui, c'est vrai. Le centre antipoison du CHU de Bordeaux le constate. Les appels se multiplient avec une nette augmentation des accidents domestiques touchant les enfants. Ils sont à la maison toute la journée. Les parents, pris notamment par le télétravail, relâchent leur vigilance quelques instants. Et c'est là que le petit met un produit ménager à la bouche ou boit du gel hydroalcoolique, par exemple, comme le constate le docteur Magali Labadie.
Comme il y a eu une pénurie de flacons, les pharmaciens ont fait ce qu'ils ont pu et ils ont mis du gel hydroalcoolique dans des flacons avec des bouchons qui ont la taille des bouteilles d'eau. Alors que le gel alcoolique, d'habitude, c'est soit des boutons poussoirs, soit des bouchons avec un embout très fin. Donc quand les enfants ont à portée de main la solution hydroalcoolique, ben ils en boivent une grosse gorgée, ce qui n'arrivait pas avec les flacons poussoirs. On constate des désinfections inadaptées des logements. Les gens sont tellement inquiets avec le coronavirus qu'ils nettoient la maison du sol au plafond avec de l'eau de Javel concentrée. De ce fait, ils ont des signes respiratoires, des irritations oculaires et parfois même des crises d'asthme. Le troisième phénomène, c'est l'automédication. Parfois, ils prennent du paracétamol en trop grande quantité. Parfois, ils prennent de l'hydroxychloroquine de manière indue.
Et la peur du coronavirus qui conduit donc certains à faire un peu n'importe quoi, comme s'enduire de gel hydroalcoolique ou se passer de l'eau de Javel ou de l'alcool à brûler sur la peau, rappel des médecins du centre antipoison, faites le ménage chez vous, mais comme d'habitude, et lavez-vous les mains avec du savon.
Ouais, avec du savon et pas avec de la Javel. Et les aliments, on les rince à l'eau claire, ça suffit. Merci Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 en Nouvelle-Aquitaine.
Alors heureusement Sébastien, il y a les bons côtés de ce confinement quand même. On passe plus de temps en famille, avec nos enfants, avec nos proches.
Et encore faut-il les occuper, les enfants, cette période où les vacances scolaires ont commencé dans certaines régions. Pierre Herbulot, vous avez suivi à distance aujourd'hui la journée d'une famille, 4 enfants à gérer à côté du télétravail. Comment ça se passe cette 4e semaine?
Eh bien, ça se passe de mieux en mieux parce que toute la famille trouve un peu ses marques et surtout parce que depuis le début de la semaine, Anne-Sophie, la maman, est en vacances et non plus en télétravail. Elle a donc le temps de faire des tonnes d'activités avec ses 4 enfants, dont Oscar, 11 ans, et Anna, 10 ans.
On regarde des dessins animés le soir, on lit beaucoup.
Parfois, on joue au Cluedo, on fait des puzzles et des jeux de cartes.
Mais c'est vrai que rester à la maison toute la journée, ça ne donne pas les meilleures vacances du monde.
Ce qui m'ennuie, c'est qu'il faut... En fait, nos copains, on les voit pas trop. En fait, tout ce qui est sport et être dehors, faire du skate, de la trottinette, ça manque.
D'autant que le plan initial, c'était une semaine au bord de la mer sur l'île-Dieu.
On devait partir en vacances comme beaucoup de gens et voilà, on n'est pas partis hein, maintenant.
On a annulé.
Mais Anne-Sophie préfère voir le bon côté des choses.
C'est un peu comme un long week-end où il ferait pas très beau finalement. On en profite aussi pour passer des moments avec eux, à faire des, par exemple, des jeux, des gâteaux. On fait pas mal d'activités qu'on fait pas habituellement, donc c'est un côté très sympa aussi. Hein.
On se voit un peu trop, mais sinon, ça va.
Voilà, c'est bien résumé.
Je crois que vous avez compris, Sébastien, Nathalie, on se supporte et on s'amuse, mais on espère surtout être déconfiné pour les vacances d'été.
Pierre Herbulot, oui, bah on va croiser les doigts.
On est tous d'accord. Hein. Merci Sébastien Krebs. Revenez à 18h30 avec un rappel des titres sans faute. Et puis à 19h30, on va parler ensemble du couple, notre rapport à l'autre dans cette séquence, ce moment si particulier, si peu habituel. Comment ça se passe chez vous? Une sexologue et une psychologue répondront à toutes vos questions. C'est au 39-21 qu'on vous accompagne, bien sûr. Du côté du ciel. Bonsoir Anissa, on s'est retrouvés. Alors
bonsoir,
j'espère que le son va s'améliorer au fur et à mesure.
Vous êtes un petit peu loin.
Ouais, mais on se rapproche toujours. On finit toujours par se rapprocher. Avec une journée presque estivale demain.
Oui, presque estivale, effectivement. Il a fait beau aujourd'hui. Eh bien, dites-vous que demain, ça sera encore mieux. Le temps est très ensoleillé sur la majeure partie du pays. Demain matin, alors nous aurons tout de même, parce qu'il faut trouver des mets dans une météo pareille. Nous aurons sur les côtes vendéennes, charentaises et languedociennes quelques petites brumes et brouillards. Ces nuages bas vont très vite se dissiper pour laisser place au soleil sur tout le pays. Dans l'après-midi, sur le massif central, la Bretagne, les Alpes et la Corse, là aussi, nous aurons quelques nuages qui vont survoler le ciel, avec d'ailleurs sur les Pyrénées un risque d'averse. Les températures, elles sont toujours très élevées pour la saison. 8 à 11 degrés en moyenne demain matin. Il fera plus frais sur le nord-est avec 4 à 6 degrés. Et puis alors les maximales, accrochez-vous, elles vont très souvent dépasser les 25 degrés. Demain, nous sommes bien au-dessus des normales de saison avec 25 à Dijon, Besançon et Rennes, 26 à Périgueux, Tours, Strasbourg et Paris, 27 à Angoulême. Il fait plus frais en bord de mer avec 20 degrés à Nice et 21 à Brest.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec votre invité dans un instant, Nathalie Lévy.
Oui, un invité de marque ce soir qui lui-même a été touché par le coronavirus à sa manière et en chanson. Il rend hommage aux soignants, aux caissières aussi, à tous ces héros du quotidien. Patrick Bruel est en direct sur Europe 1 ce soir, c'est dans une minute.
Il est 18h20 sur Europe 1, votre grand journal du soir reste à vos côtés dans cette crise sanitaire tous les soirs. Avec votre invité Nathalie Lévy, il a été atteint du coronavirus. Il est acteur, chanteur. Patrick Bruel est en direct ce soir sur Europe 1.
Bonsoir Patrick Bruel.
Bonsoir Nathalie.
Merci beaucoup d'être à mon micro ce soir. Effectivement, vous avez été touché par le Covid-19. Comment allez-vous aujourd'hui, Patrick Bruel, et où vous soignez-vous?
Très bien, ça va très bien. Moi, j'en suis à 25 jours. Je pense que cette saloperie est derrière moi et voilà, il y a pas à faire la lumière sur moi là-dessus. C'est pas très important. Ce qui est important, c'est ce qui est en train de se passer partout et surtout de saluer l'effort collectif qui est fait pour que les choses s'améliorent.
Bien sûr, cet effort collectif vis-à-vis des soignants, vis-à-vis des commerçants, ceux qui restent debout aujourd'hui, on y vient dans un instant parce que dans ce confinement, quasiment depuis le début, vous partagez avec le public, les Français, des concerts privés depuis chez vous, avec notamment cette chanson, on va en entendre quelques notes, Héros, qui prend bien sûr tout son sens hein, pour soutenir le personnel hospitalier. Écoutons.
Je veux offrir ces quelques phrases à ceux qui passent et puis s'effacent, aux inventeurs de jolis mots, morts de les avoir chantés trop, à ceux qui courent dans les secours, qui dans les nuits donnent le jour, à ceux qui s'éteignent dans les flammes, sans drapeau et sans oriflamme, à tous ceux qui se donnent, à tous ceux qui se donnent, hommage aux femmes, hommage aux âmes, hommage aux hommes, tous ces faiseurs d'humanité.
Voilà, des paroles puissantes et évidemment un titre qui prend tout son sens hein, dans le contexte actuel. C'était essentiel pour vous d'intervenir à votre manière?
Oui, je pense qu'on a tous une partition à jouer dans cette situation et je crois que nous sommes dans une immense symphonie, que tout le monde a une partition à jouer. Il y a ceux qui jouent leur partition sur le terrain, il y a ceux qui jouent leur partition en restant chez eux et en restant chez eux en se confinant, participent aussi de l'effort collectif parce que c'est très difficile de rester confiné, c'est difficile de rester chez soi. Pour beaucoup de gens, c'est même très très difficile vu les circonstances et les conditions dans lesquelles ils le sont, mais je prends que ce sont aussi des héros, ceux qui participent à cet effort-là. Nous, à mon humble niveau, c'était de proposer des lives tous les le jeudi soir et le dimanche soir, enfin après-midi sur Facebook, où en effet on réunit le plus grand nombre avec lesquels on partage, on passe un moment et on chante, on discute, on envoie quelques messages. On est là aussi pour envoyer quelques messages, le message de solidarité à nos héros. Oui, nos héros, oui. Nos soignants, nos, oui. Nos forces de l'ordre, nos pompiers, tous ces membres de la société civile qui apportent leur contribution à cette crise épouvantable.
Je voulais juste préciser que s'agissant de ce titre Héros, et vous l'avez dit, ce sont des héros aujourd'hui, tous ceux qui nous permettent d'avoir un quotidien à peu près normal. Ça fait partie de votre album Ce soir on sort et les revenus sont reversés pendant un an, les revenus de cette chanson à la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Et d'ailleurs, vous allez au-delà, et quand vous parlez d'immenses symphonies, j'ai envie évidemment de révéler et d'écouter aussi dans un petit instant le travail collectif que vous avez fait, cette chanson inédite Et demain, par le collectif du même nom, fort de 350 personnalités, dont vous, Patrick Bruel, mais aussi on peut citer des acteurs, des artistes, des sportifs, des journalistes, au profit toujours de cette Fondation des Hôpitaux de Paris, présidée par Brigitte Macron. Oui. C'est elle qui en est à l'initiative? Oui. C'est elle qui a décroché son téléphone?
Non, elle a décroché son téléphone pour nous remercier à chaque fois qu'on a fait quelque chose. Non, l'initiative de cette chanson est venue de quelques artistes qui ont décidé d'écrire ça et puis ça s'est embrasé avec un groupe formidable sur Facebook qui est venu s'agrandir pour dépasser les frontières de la chanson, du cinéma, du sport, des gens de tout horizon qui sont venus et qui ont posé leur voix, leurs gestes, leurs mots. Et puis il y a eu un montage qui est sur la chanson est très jolie, elle est très évocatrice, elle est très forte. On est tous très fiers de ça et on est tous très fiers de dire que nous avons fait ça pour gagner de l'argent pour la fondation, pour les fondations hôpitaux, et que nous appelons tout le monde. Il y a une manière de faire un don en allant se connecter sur hôpitaux de la fondation des hôpitaux.fr.
Et
voilà, je vous expliquerai ça à votre manière.
Tout est sur le site et évidemment on va le relayer. Voilà. Mais que vous a-t-on demandé? On vous a dit voilà, Patrick Bruel, il y a un projet, il y a une envie, allez-y, mettez quelques mots, mettez quelques notes.
On est sur un groupe Instagram sur lequel on échange depuis plusieurs semaines, et puis voilà, l'idée est partie de deux artistes qui ont magnifiquement écrit, et puis hop, c'est parti, puis chacun a apporté sa contribution, mais il y en a qui ont fait des efforts magnifiques pour que le plus grand nombre soit là, pour que ce soit réuni. C'était extrêmement émouvant la manière dont ça s'est passé. C'est pour ça que le morceau dégage une émotion et un supplément d'âme, et je pense que les gens y sont sensibles, et en tout cas tout le monde sait pour quelle cause c'est fait, et tout le monde sait à quel point aujourd'hui il y a un besoin urgent de moyens, et voilà. Et chacun à sa manière peut apporter.
Qui sont les artistes?
Je précise que même les tout petits dons, Nathalie, même les tout petits dons sont les bienvenus. Un don d'un euro, de deux euros, de cinq euros, tout est bienvenu. Parce que c'est avec les petites gouttes qu'on fait les océans.
Qu'on fait les océans, bien sûr. Qui sont-ils, ces deux artistes dont vous nous parlez, Patrick Bruel, sans les nommer? J'entends bien qu'il y a une pudeur.
Oui, il y a une pudeur. Il y a pas que deux, il y en a plusieurs. Voilà, c'est comme ça qu'il faut. Voilà, c'est qu'il faut présenter. C'est vraiment un projet collectif. C'est le collectif et demain qui est en avant.
D'accord, Patrick Bruel. Demain, c'est quoi le confinement pour vous?
C'est quoi le confinement demain ou l'après confinement?
Le déconfinement. Pardonnez-moi.
Le déconfinement.
L'après confinement.
Oh, ça sera déjà de prendre mes enfants dans mes bras, parce que ça fait 4 semaines que je suis tout seul à Paris. Ça sera de recommencer une vie active, mais en tenant compte de peut-être de pas mal de signaux qui nous ont été envoyés. Il y aura forcément un avant, un après. Il y a sûrement des conclusions à tirer. Il y a probablement des remises en question. Il y a probablement des grands questionnements sur des grands sujets. Et il y aura un grand questionnement sur la planète, il y aura un grand questionnement sur le rapport à l'autre, sur le rapport aux différences, sur les inégalités, sur énormément de choses. Je pense qu'il y aura, en tout cas, il y a cette prise de conscience, il y aura une réflexion. J'espère que ça durera. J'espère que parce qu'il y aura certainement un état de grâce à la sortie de ce confinement, et j'espère qu'il durera. J'espère que les élans de solidarité, les élans de soutien, une manière différente de regarder l'autre peut-être perdurera. En tout cas, je l'espère, vraiment, je l'espère.
Merci. Merci beaucoup Patrick Bruel. Alors vous l'avez rappelé, je vais le repréciser, http://www.facebook.com, et demain le collectif, et puis la page Facebook si c'est plus simple pour vous. Les dons, vous l'avez dit Patrick Bruel, sont recueillis, quelle que soit la somme, il faut y aller, il faut participer via la page Facebook du collectif et demain entre autres. Merci beaucoup Patrick Bruel de nous avoir accordé quelques minutes ce soir sur Europe 1.
Merci à vous et à tous les gens qui continuent à divertir et à animer et à faire tourner une radio comme vous le faites. C'est admirable. Bravo à tous. En tout cas.
Merci
pour ça.
Et merci à vous également. Et demain, on va écouter quelques morceaux de ce titre parce qu'effectivement, il fait du bien. Vous l'avez rappelé et il est utile. Merci beaucoup, Patrick Bruel. Voilà, et demain, par le collectif du même nom, fort de 350 personnalités, dont Patrick Bruel, et cet argent qui va à la Fondation des Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, présidée par Brigitte Macron. N'hésitez pas. On va se retrouver dans un instant. L'info, c'est avec Sébastien Krebs.
Il est 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir. Nathalie Lévy.
Dans un instant, les grandes voix. D'abord, votre rappel des titres, Sébastien Krebs.
Faudra-t-il installer une application sur nos smartphones pour entamer le déconfinement? Le gouvernement travaille sur un petit logiciel qui nous préviendrait en cas de contact avec un malade. Mais pas de fichage de nos déplacements, promettent les autorités. Chacun serait libre de l'utiliser ou pas. Le confinement qui commence à payer, disent les experts, même s'il ne faut pas le relâcher. Pas encore. Le pire semble passer, notamment dans la région du Grand Est. Nous y serons à 19h. Le Grand Est où le directeur de l'ARS a été limogé aujourd'hui après des propos qui avait choqué sur le maintien d'un plan de suppression de postes à l'hôpital de Nancy. À Paris, après Paris, la banlieue interdit à son tour le jogging en journée, activité sportive bannie entre 10h et 19h dans 5 autres départements d'Île-de-France. En Grande-Bretagne, l'état de santé de Boris Johnson s'améliore, dit son ministre des Finances. Il peut s'asseoir sur son lit et parler avec les soignants. Le Premier ministre est toujours en soins intensifs. Le Royaume-Uni qui a passé aujourd'hui la barre des 7000 morts. Aux États-Unis, 13000 décès comptabilisés, annoncent les autorités, et l'affiche de la présidence. Présidentielle 2020 est désormais connu. C'est Joe Biden qui affrontera Donald Trump en novembre. Bernie Sanders abandonne la course de la primaire démocrate. Enfin, après l'attaque au couteau de Romans-sur-Isère samedi dernier et qui avait fait 2 morts, l'assaillant présumé a été mis en examen aujourd'hui pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste.
Merci beaucoup Sébastien. On se retrouve pour un nouveau journal complet à 19h. Anissa, on lève la tête et là on apprécie ce qu'on voit.
Ah bah on voit du bleu et du jaune hein, principalement, ouais, et, bah ouais. Et ça va continuer et ça va aller de mieux en mieux à chaque fois qu'on va avancer dans la semaine. Donc dites-vous qu'aujourd'hui c'était pas mal, bah demain ça sera encore mieux. C'est une très belle journée demain avec dans l'après-midi un soleil qui va briller généreusement sur toute la France sans aucun nuage. On aura ce qu'on appelle, vous savez, des cumulus de beau temps. Ce sont ces nuages d'altitude assez fins qui vont de temps en temps passer devant le soleil, notamment en Corse et sur le sud-est, mais rien de très inquiétant. Au nord-est, ça sera un petit peu plus couvert, mais vous aurez toujours une belle journée. Et puis attention, demain matin quand même, sur les côtes vendéennes, charentaises et languedocienne, là nous aurons des petites brumes et brouillards en tout début de journée. Les températures, elles vont exploser les normales de saison demain, puisque nous aurons sur une grande partie de la France des températures bien au-dessus des 25 degrés. Et votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1. Nathalie Lévy, c'est l'heure de prendre du recul sur l'info du jour. Les dernières infos qui viennent de tomber avec le débat des grandes voix ce soir autour de vous. Et toujours à distance, le docteur Jimmy Mohamed, le médecin d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1. Et depuis New York, Xavier Yvon, notre correspondant aux États-Unis.
Bonsoir Xavier Yvon et bonsoir à vous les grandes voix,
bonsoir,
ici en France,
bonsoir à tous.
Mais
bonsoir.
Avec
bonsoir
autant
Nathalie,
de plaisir,
bonsoir à tous.
Évidemment je vous retrouve chaque soir, c'est pas parce que vous êtes là, tout près, enfin un peu plus près. Le docteur Jimmy Mohamed est avec nous ce soir aussi, merci parce que vous êtes là dès l'aube, ou presque, hein, sur l'antenne d'Europe 1. Dites-moi docteur Jimmy Mohamed, je n'y comprends plus rien, j'ai besoin de votre éclairage ce soir. Les masques, on en parle On nous dit un jour que c'est inutile, le lendemain ou 3 semaines après qu'il faut en porter. C'est pas la solution miracle. Philippe Juvin me le redisait d'ailleurs lundi soir. Mais il est bon d'en porter. Il est même très utile d'en porter. Mais voilà, on en est là, on est limité. Donc on est dans des masques en tissu quand on n'en a pas à la maison. Et là, est-ce que c'est utile ou pas ?
Alors vous avez raison, les masques chirurgicaux ne sont pas l'alpha et l'oméga de la lutte contre l'épidémie. En revanche, ce qu'on sait, c'est que les masques chirurgicaux réduisent la quantité de coronavirus dans les gouttelettes respiratoires et les aérosols pour les coronavirus. Et dans les pays où on porte le plus de masques, c'est les endroits où il y aurait finalement le moins de cas de Covid-19. Et par conséquent, étant donné que nous manquons de masques chirurgicaux, on a plein d'initiatives parlant de masques en tissu. Le problème, c'est que nous ne sommes absolument pas sûrs de leur efficacité. Et nous ne sommes même pas sûrs que ce ne serait pas peut-être pire que rien. Si on prend une étude qui date de 2015, qui a comparé les masques en tissu avec les masques chirurgicaux, eh bien ça révèle qu'ils sont plutôt inefficaces, ceux en tissu, plus de grippe, plus de syndrome grippaux, plus de détection de virus comparé aux masques chirurgicaux.
On est mal, docteur.
Eh oui.
Bah oui, on est mal parce que une autre étude montrait que ce sont des véritables passoires à virus et que l'un des facteurs les plus importants réside dans le fait que nous ne savons pas les utiliser, quand je dis nous, c'est la population générale, et que nous risquons de nous contaminer au moment où nous allons les attacher, voire les détacher. Regardez ce qui se passe un peu dans les rues. Certains pensent que nous sommes peut-être à la Fashion Week où portent le masque style cow-boy en le mettant vers le bas, c'est-à-dire qu'ils sont au niveau de leur menton, puis vont le remettre vers le nez. Facteur majeur de contagion, d'autant plus que quand vous avez un masque, vous pensez protéger et du coup, vous vous relâchez. Et par conséquent, vous risquez de mettre votre main à la bouche, toucher le masque et tomber malade.
Bon, c'est quand même vraiment pas la bonne nouvelle, docteur Mohamed. Juste, si on met un mouchoir ou un sopalin à l'intérieur, est-ce que ça limite un peu ou pas?
On n'en sait strictement rien. On pense que c'est peut-être mieux que rien, mais on n'est pas sûr. Moi, j'appelle aux gens à la plus grande prudence. Ce n'est pas parce que vous avez un masque que vous êtes protégé. Même chose avec les gants. À titre personnel, je ne fais pas mes courses avec des gants, car je sais que lorsque j'ai des gants, je serai tenté de croire que je suis protégé et je vais commettre des erreurs et mettre mes mains à la bouche. Tout ce que je fais, c'est que je me lave les mains régulièrement. J'utilise, quand il y en a, du gel hydroalcoolique. Et les masques sont, lorsque vous décidez de les mettre, vous les mettez en sortant de la maison et vous ne le retirez seulement lors de votre retour. Et si vous utiliser des masques en tissu, il faut les laver tous les jours, 60 degrés durant 30 minutes, c'est le minimum syndical et encore la plus grande des prudences. Peut-être que nous aurons des surprises puisque les études vont fleurir petit à petit et peut-être que ce sera pire que porter rien du tout.
Ouais. Bon, en tout cas, c'est quand même pas une très bonne nouvelle. Et c'est là où Michaël Darmon, je vous interpelle, éditorialiste évidemment. Et hier soir, vous nous annonciez en exclusivité sur Europe 1 l'allocution d'Emmanuel Macron pour demain 20h que vous commenterez à mes côtés. Enfin, en tout cas, à distance, mais quand même, juste après sa prise de parole, la troisième, depuis le début de ce confinement. Peut-être aura-t-on des éléments sur les masques, ces masques qui arriveront de Chine qu'en juin, par exemple, même si on en fabrique sur le territoire.
Oui, on aura très certainement des précisions, en tout cas sur la manière dont il faudra les porter et de la façon dont ce déconfinement pourra se préciser. On a compris également que le gouvernement tâtonnait dans son discours. La semaine dernière, pour la première fois, Édouard Philippe prononçait le mot déconfinement. Aujourd'hui, il est le même à dire, c'est beaucoup, c'est prématuré pour en parler. Entre-temps, on n'a pas changé Premier ministre, c'est toujours Édouard Philippe. Mais ils se sont aperçus au gouvernement que ce mot avait ouvert une boîte de Pandore sur les comportements, sur les scénarios et surtout montrer que le gouvernement en est au tout début de sa préparation. Tout le débat qu'on va certainement évoquer autour de la technologie à mettre en place, le fameux traçage numérique à mettre en place pour pouvoir ensuite procéder au déconfinement et faire en sorte que l'on puisse petit à petit reprendre une vie normale. Donc on attendra certainement demain toutes ces précisions et également le rôle du président de la République qui réaffirme selon ses proches, qu'il accompagne les Français, qui est là pour donner l'impulsion. Ouais. Bref, qu'il veut être
accessoirement, pardonnez-moi, je ne vais pas faire de mauvais esprit, mais accessoirement quand même, vous Emmanuel Macron, qui avec sa dernière sortie a eu le droit à un petit bain de foule quand même en Seine-Saint-Denis avant de entrer dans cet établissement pour seniors. On y reviendra si vous voulez bien. Absolument. Juste après, parce que Xavier Yvon nous attend de l'autre côté de l'Atlantique. Bonsoir Xavier, merci d'être là. Xavier, la situation chez vous, elle a viré au cauchemar déjà aux États-Unis depuis quelques jours déjà. Avec une situation d'autant plus problématique et terrible, terrifiante même, pour la population noire, très très affectée, plus que les blancs même.
Oui, alors ça c'est quelque chose dont on parle de plus en plus depuis quelques jours ici. Le problème c'est qu'on n'a pas de statistiques nationales, il n'y a pas assez de données, mais état par état, on nous explique que par exemple à Chicago, vous avez 30% de la population de la ville qui est afro-américaine, mais les afro-américains représentent 70% des décès. C'est pareil en Louisiane, il y a les mêmes chiffres aussi dans le Michigan ou dans le Wisconsin, et c'est quelque chose qui est tellement important et tellement alarmant que c'était même à la une du New York Times aujourd'hui, et il y a plusieurs explications à ça. C'est parce que en fait la population afro-américaine subit des inégalités sociales depuis des générations et que ça se ressent ensuite quand il y a une pandémie qui vient s'installer. Elle se met sur les comme une couche par-dessus les inégalités sociales. Donc la population noire aux États-Unis est moins bien assurée et en plus mauvaise santé, a des jobs qui sont souvent des jobs qui permettent pas de travailler depuis la maison. Et donc vous avez la pauvreté et le manque d'accès aux soins qui touchent ces afro-américains depuis des générations en fait, et donc ce qui fait que historiquement ils ont plus de problèmes par exemple de diabète ou de cœur ou de poumons ou de pression sanguine, et c'est évidemment des facteurs aggravants quand on a le coronavirus et des facteurs qui le rendent encore plus mortel.
Eh oui, évidemment. On va y revenir, la situation chez vous qui est épouvantable et à la communication de Donald Trump, j'allais dire à peu près, oui, au même niveau, épouvantable peut-être, vous me direz ça dans une seconde. Emmanuel Duteil, les mots sont là, les mots sont dits, la France est en récession et d'une ampleur jamais connue depuis plus de 70 ans maintenant, depuis 1945 pour être exact.
Oui, effectivement, parce qu'à la rigueur que la France soit en récession, ça j'aurais dire que malheureusement, on s'y est un petit peu habitué ces dernières années. Qu'est-ce que ça veut dire déjà être en récession? Ça veut dire avoir deux trimestres de croissance négative à la suite. Donc le quatrième trimestre, on a eu une toute petite baisse de 0,1. Et alors là, sur les trois premiers mois de l'année, c'est un cataclysme. Comme vous le disiez, on n'a jamais vu ça. C'est pire qu'en mai 68. Il faut remonter à 1945 pour avoir une baisse aussi forte, puisque ce qu'on appelle le PIB. Alors, c'est quoi le PIB déjà? Ben, c'est toutes les richesses que l'on produit sur un trimestre, en l'occurrence en France. Eh bien, ce PIB va reculer, selon la Banque de France, de 6%, c'est bien évidemment énorme. C'est à cause, évidemment, du coronavirus. Les 15 derniers jours du mois de mars, depuis le début du confinement, ont été tragiques pour l'économie. Faut voir que des secteurs entiers sont à l'arrêt, même si ça redémarre un tout petit peu. La construction est à l'arrêt, mais la restauration, le commerce, l'hôtellerie, les transports, tout ça sont quasiment à l'arrêt. Et donc, ça a un impact majeur. La Banque de France n'est pas très rassurante pour la suite, puisqu'elle estime que tant que le confinement se poursuit, eh bien, ça va avoir le même impact sur l'économie. Et le gouverneur de la Banque de France dit même que avril devrait être à peu près comme les 15 derniers jours de mars. Pour autant, c'est très compliqué d'avoir une idée de l'ampleur de la baisse si on regarde cette fois la croissance sur l'année. La seule certitude, c'est ce qu'a dit Bruno Le Maire il y a de ça quelques jours, hein, puisque le ministre de l'économie avait dit « ce sera pire qu'en 2009 », donc juste après la grande crise de 2008. Et là, le PIB avait reculé de quasiment 3%, 2,9 pour être précis. Donc voilà, on va vivre là aussi quelque chose de totalement historique.
Inédit. Bon, bah écoutez, on se prépare psychologiquement à tout ça. chaque jour, Mickaël Darmon, je reviens à vous d'un mot parce qu'effectivement, et puis peut-être le docteur Jimmy Mohamed aussi peut nous éclairer là-dessus. Il y a évidemment l'aspect technique des choses, l'aspect éthique et puis l'aspect médical. C'est bien sûr ce tracking dont on a commencé à parler ici même avec Ève Roger hier soir et avec vous. Et je posais la question hier à Sacha Houlier, député La République En Marche de la Vienne, qui est totalement opposé à ce traçage numérique. Ça fait son chemin, Mickaël Darmon. Clairement, ça fait son chemin, mais ça fait aussi débat.
Ah ben c'est plus qu'au débat, c'est même quasi affrontement entre au sein de La République En Marche qui peut-être en passe d'imploser sur cette question justement du traçage numérique, qui est d'ailleurs un comble pour Emmanuel Macron qui voit arriver des frondeurs numériques alors qu'il avait organisé tout son projet présidentiel précisément sur la révolution numérique. Vous aviez aujourd'hui par exemple, pour prolonger ce qu'il vous a dit chez vous hier Sacha Houlier, vous avez une tribune aujourd'hui d'une quinzaine de députés de La République En Marche, plutôt identifiés dans le pôle gauche, c'est-à-dire des macronistes de la première heure, mais déçus de l'évolution donc de la politique présidentielle, qui sortent une tribune avec un titre sans ambiguïté, c'est bien d'un dépistage massif et non d'un pistage massif dont nous aurons besoin, disent-ils, avec donc signé par Mathieu Orphelin, Aurélien Taché, Émilie Cariou, bref, tous ceux que l'on connaît comme étant le pôle gauche de la Macronie. Ce qui montre à quel point ce débat est vif et à quel point il ne faudra pas, bien entendu, que l'exécutif rate la sortie, du confinement.
Du confinement, parce que c'est de ça dont on parle avant
pour la suite, absolument.
Bien sûr. Je vais poser la question tout à l'heure au premier secrétaire du Parti Socialiste, Olivier Faure, il sera mon invité à 19h10. Mais, docteur Jimmy Mohamed, je vous pose aussi la question parce que, pas sur le plan, évidemment, politique, éthique ou même technologique, mais on le sait, ça y est, il y a une appli qui est dispo apparemment dès le 20 avril, qui devrait pas fliquer les citoyens, pour parler dans un langage courant, mais qui est largement à l'étude à Matignon, même quasiment acté. Est-ce que quand même ça peut être une solution dans cette volonté de déconfiner vite et quand on sait qu'il n'y a que 15% de la population qui est immunisée,
si mes calculs sont effectivement, quand on parle de déconfinement, et peut-être même qu'on est moins de 15% à être immunisé, c'est peut-être ça qui est encore plus dramatique, quand on parle de déconfinement, on a l'impression que le virus n'existe plus. Je pense que l'application est un des outils qui permettra éventuellement de limiter une seconde vague. L'enjeu est simplement là, puisque les hôpitaux ne pourront pas absorber une vague aussi violente que la première. Alors l'idée, c'est pas effectivement de faire du flicage, c'est si jamais autour de vous, vous avez quelqu'un qui a rencontré le virus et qui est malade, et ben vous allez avoir une petite alerte qui vous invitera à vous confiner, à faire un dépistage. C'est des outils qui ont été utilisés, qui ont fait
preuve de leur efficacité, notamment en Asie et en Corée du Sud, et qui permettront peut-être d'éviter des drames. Alors après, sur la question des libertés individuelles, je pense que la France n'est peut-être pas prête psychologiquement, mais d'un point de vue purement médical, je pense que c'est un outil intéressant, un des moyens supplémentaires qui pourront nous aider à sortir de cette passe.
Docteur, je prolonge avec vous une petite minute et on se retrouvera ensuite juste après. C'est un peu mieux en ville s'agissant du nombre de cas de contamination Covid ?
Oui, honnêtement, mes confrères le constatent et je le constaterai en ce moment, c'est quasiment, alors ça c'est pour ma part, je ne vais pas m'avancer sur toute la France, mais quasiment du chômage technique, et c'est une bonne nouvelle. La seule chose, c'est que il faut savoir qu'il y a un décalage très net entre ce que nous voyons en ville et ce qui se passe à l'hôpital. N'oubliez pas qu'il y a une période d'incubation qui va jusqu'à 14 jours, vous allez développer la maladie, vous allez vous dégrader au bout de 5 à 10 jours, et puis ensuite, si besoin, vous irez en réanimation pendant 2 à 3 semaines, et donc les cas que nous ne voyons plus aujourd'hui permettront de libérer des lits, peut-être d'ici 3 à 4 semaines, raison pour laquelle il y a un petit décalage entre le début du confinement et l'amélioration des chiffres. Le solde pour l'instant de malades qui sont en réanimation, c'est-à-dire entre les entrées et les sorties, est en nette diminution. Néanmoins, il y a toujours des hospitalisations, donc soyons prudents, ne parlons pas tout de suite de déconfinement. Je pense que, et au Conseil scientifique il l'a annoncé, nous sommes encore devant plusieurs semaines de confinement avant d'envisager une liberté par la suite.
Plusieurs semaines, nous dites-vous ce soir, et ce sera de toute façon fractionné, région par région tout au moins. Et donc, effectivement, on n'est pas tout à fait sorti d'affaire. On va se retrouver dans un instant, docteur Jimmy Mohamed, Xavier Yvon depuis les États-Unis, bien sûr, Emmanuel Duteil et Mickaël Darmon. À tout de suite, les grandes voix.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, proche de vous pendant cette crise sanitaire, avec le débat des grandes voix. Ils répondent à toutes vos questions. Le docteur Jimmy Mohamed, médecin d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1, et depuis New York, Xavier Yvon, notre correspondant aux États-Unis.
Et Xavier Yvon, c'est de Donald Trump que j'avais envie de vous parler ce soir, parce qu'on pourrait évidemment en parler tous les soirs. Cette fois, il charge l'OMS qui s'est plantée, selon lui. Mais hier, c'est une autre cible. Avant-hier, encore une autre façon, évidemment, de se prendre, en tout cas, d'aller loin, d'être dans la provocation une fois encore. C'est plus très cohérent là, non ?
Bah, en fait, je vais vous surprendre. De son point de vue, si, c'est cohérent. Vous m'avez dit, on peut en parler ce soir, on aurait pu en parler hier ou demain. Et c'est exactement vrai, puisqu'en fait, il parle tous les soirs de la crise. Ça fait 24 jours de suite qu'on l'entend pendant une heure et demie, deux heures. Alors, c'est pas toujours lui. Il fait venir des gens au podium. Il fait son show tous les soirs, depuis la Maison Blanche, depuis le début de cette crise. Et de son point de vue, c'est cohérent parce qu'en fait, pour lui, ce sont comme des meetings électoraux. Il joue sa réélection sur cette crise du coronavirus. Et donc, il occupe le terrain médiatique. Commence d'ailleurs à y avoir dans les télévisions, les chaînes d'infos en continu, des débats sur faut-il ou non continuer à retransmettre en direct ces conférences de presse de Trump, parce que c'est du temps d'antenne gratuit de la propagande pro-Trump. Alors Fox News se pose évidemment pas la question, mais les autres chaînes comme CNN ou MSNBC ont commencé à couper de temps en temps le Trump show, sauf qu'en fait ça marche, hein, parce que c'est Trump et qu'il sait faire le spectacle. Donc effectivement, il dit l'OMS s'est plantée, et dans le même briefing hier, il dit l'OMS s'est plantée, on va retirer notre contribution financière, et 10 minutes plus tard, non, je n'ai jamais dit ça, nous l'avons pensé très fortement, mais nous n'allons pas encore le faire. Donc en fait, il peut dire un peu tout et n'importe quoi du moment qu'il occupe le terrain, qu'il est là, et les Américains, eux, dans leur télé, ils voient un président qui est au podium tous les soirs, entouré par des généraux ou des experts, et qui dit qu'il fait tout bien et que c'est la faute des autres, donc soit de l'OMS, soit de la Chine, soit des gouverneurs des États qui ne font rien ou qui font mal les choses ou qui gémissent parce qu'ils veulent des respirateurs alors qu'il en a donné. Et ça explique une décision un breaking news qu'on appelle ici, qu'on a eu là il y a quelques minutes, c'est que Bernie Sanders a arrêté sa campagne pour la primaire démocrate. Oui. Il abandonne, c'était le dernier face à Joe Biden, donc très vraisemblablement c'est Joe Biden qui affrontera Donald Trump en novembre à l'élection présidentielle. Pourquoi Bernie Sanders a abandonné? Parce que déjà il avait un retard trop important, mais surtout il voit lui aussi que Trump est en train de gagner des points en étant à la télé tous les soirs. Il n'y a plus de campagne démocrate en ce moment. Ils sont plus là, il y a plus de meeting, il y a plus de vote, donc on les voit plus, on les entend plus, et le seul qu'on voit, qu'on entend, c'est Donald Trump. D'ailleurs, sa cote de popularité n'a jamais été aussi élevée. Donc Bernie Sanders, il voulait continuer la course face à Joe Biden pour continuer à peser à gauche, mais il s'est rendu compte que c'était contre-productif et que maintenant il fallait libérer Joe Biden et le laisser seul face à Donald Trump.
Ah oui, donc là, à ce stade, en novembre, normalement, ça se joue entre deux hommes de plus de 70 ans, de plus de 71 voilà. même, à ce stade.
Exactement. Mais en fait, mais ça aurait été Sanders, c'était pareil.
C'est vrai, vous avez raison. Je reviens dans un instant. Emmanuel Dutheil, il y a une nouvelle qui va certainement réjouir les élus locaux, mais attention à la santé des postiers. Les postes vont reprendre du service, parce que c'est vrai, hein, les élus locaux en zone rurale, on était véritablement plus qu'agacés.
Oui, alors plein de monde a été agacé, hein. Vous avez raison de dire les élus locaux, mais aussi pas mal de Français quand même, puisque je rappelle bien pour sûr. Ceux qui s'en étaient pas rendu compte, la livraison de courrier avait été ramenée sur 3 jours. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas assez de postiers, il fallait laisser le temps à l'entreprise de s'organiser. Donc aujourd'hui, l'entreprise s'organise. Là, d'ici quelques jours, il va y avoir 4 jours de distribution du courrier. Et à compter de mi-avril, on va revenir à 5 jours. Alors pas encore à 6 jours, mais en tout cas à 5 jours de livraison de courrier. C'est aussi une très bonne nouvelle pour les éditeurs de presse, puisqu'on ne le sait pas toujours, mais une bonne partie des journaux sont livrés par la poste, donc c'était très compliqué pour les journaux. Donc là aussi, les gens vont pouvoir retrouver un petit peu de lecture. C'est important en ce moment où on n'a pas obligatoirement grand-chose à faire. Par ailleurs, là aussi, ça avait beaucoup énervé du côté de la fermeture des bureaux de poste. Il y en avait 1 pour 4 environ, 1 pour 5. Et bien là, la poste a décidé d'en rouvrir. Il y aura 5000 bureaux de poste d'ici à fin avril qui seront ouverts un petit peu partout voilà. en France. Et si vous voulez en savoir plus, je fais un peu de teasing pour la matinale de Mathieu Béliard. Le patron de la Poste sera l'invité exceptionnel de Mathieu Béliard demain à 8h30.
Voilà, c'est fait et on sera au rendez-vous. Donc la question, c'est évidemment la santé des 250 000 postiers, mais tout devrait être mis en œuvre et c'est ce qui sera confirmé demain matin dans la matinale d'Europe 1. Docteur Jimmy Mohamed, la question aussi qui se pose dans cette crise du Covid, c'est aussi la surmortalité, paradoxalement, hein, liée aux autres maladies, parce que peut-être que quand on est malade, qu'on a d'autres symptômes, on n'a plus le réflexe d'appeler le médecin, le SAMU ou SOS, parce que on laisse la priorité aux malades du Covid.
Exactement, là, on imagine qu'il va y avoir 4 vagues. La première vague, c'est celle du coronavirus, avec effectivement les décès et les complications. La deuxième vague, et peut-être que nous sommes dedans, c'est l'impact sur le fait que les maladies urgentes ne sont plus traitées, puisque les gens ont peur d'appeler, ont peur d'aller à l'hôpital. Oui. La troisième vague serait celle des maladies chroniques, qu'on va laisser de côté avec le coronavirus. Et puis la quatrième, ce sera l'après, les maladies mentales, les psychotraumatismes et les burn-out. Et donc, lorsqu'on parle de cette deuxième vague, on a autour de moi des indicateurs plutôt inquiétants, des gens qui retardent à la consultation. Des amis chirurgiens m'expliquent qu'ils n'opèrent plus que des syndromes à base de péritonite, ils n'opèrent plus d'appendicite simple, ils n'ont que des complications, des gens qui ont mis de côté les symptômes, qu'on préfère attendre. Il y a une histoire dramatique d'un collègue au SAMU qui m'explique qu'un jeune homme d'une 20aine d'années est décédé d'une crise d'asthme chez lui puisque il ne voulait pas aller à l'hôpital. Et puis il y a des indicateurs beaucoup plus formels comme ceux des unités neurovasculaires. On nous explique qu'il y a moins 50% du nombre d'AVC, alors que le nombre d'AVC reste constant. Même chose pour les infarctus, les gens appellent moins le 15 et donc nous allons probablement avoir une surmortalité, nous allons avoir des gens qui petit à petit, dès lors que le coronavirus commence à disparaître, vont reconsulter. Et puis on me dit, certains amis, qu'ils commencent à avoir des accidents vasculaires cérébraux qui datent de 2-3 jours, des gens qui ont négligé leurs symptômes. Donc le message doit être clair, si vous avez autre chose que le coronavirus, il faut consulter, des filières s'organisent, vos médecins traitants sont disponibles, appelez le 15. On a l'impression que la ligne du 15 n'est réservée qu'au coronavirus, mais si vous avez des symptômes urgents, autres que le corona, appelez, voyez votre médecin, ils sont là. Les cabinets de médecine générale sont vraiment en chute libre en termes d'activité. Ils n'ont pas besoin de ça pour travailler, c'est pas une question financière, mais ils sont inquiets pour leurs malades. Donc vraiment, consultez, n'attendez pas. Il y a quelques jours, j'ai vu un monsieur de 90 ans qui n'a vu personne depuis 5 semaines, donc il est confiné, aucun risque de coronavirus. Il avait de la fièvre depuis 3-4 jours et il ne voulait pas me déranger alors qu'il avait une pneumopathie. La pneumopathie l'aurait emporté, il serait mort. Je lui ai mis sous antibiotiques, il va mieux, néanmoins, il n'a pas voulu déranger le docteur. Et donc l'enjeu est là. Consultez si vous avez des symptômes, puisque petit à petit, on risque d'avoir des catastrophes.
Voilà, c'est bon de le rappeler, vous avez bien fait, docteur Jimmy Mohamed, donc allez-y, les médecins en ville sont là pour vous orienter, évidemment, pour vous ausculter, c'est important. Merci beaucoup, docteur Jimmy Mohamed. On va conclure avec vous, Xavier Yvon. Michael Darmon, on va se retrouver, nous, demain soir, hein. On aura toute la latitude pour refaire en long, en large, en travers l'allocution d'Emmanuel Macron, bien sûr. Là, avec vous, Xavier, il y a quand même 2 informations. Une, évidemment, douloureuse ce soir, et une un peu plus souriante pour conclure. On a le en 24 heures à New York, on est à 779 morts.
Oui, alors c'est le record, hein, mais on bat des records tous les jours en ce moment à New York en nombre de morts. En revanche, et c'est l'autre information sur laquelle le gouverneur de New York insiste, il est en train de parler en ce moment où il vient de finir son allocution, c'est que le nombre d'hospitalisations est en baisse. Donc on a plus de morts, moins d'hospitalisations, ce qui donne une légère tonalité d'espoir à New York.
Bon, on va terminer justement sur de l'espoir, sur allez un sourire parce que on en a quand même besoin et sacrément même hein, dans cette période tellement particulière. Bruce Springsteen qui devient comme ça animateur de radio d'un jour juste pour une émission spéciale. On écoute, vous me racontez.
Hello E Street Nation, this is Bruce Springsteen coming from my house. To yours with music for troubled times.
Voilà, vous entendez la voix de Bruce Springsteen, le boss depuis chez lui dans le New Jersey. En fait, il a fait une émission spéciale d'un peu plus d'une heure où il a joué le DJ, comme il dit, depuis sa maison jusqu'à la vôtre pour vous apporter un peu de musique dans cette époque troublée et essayer d'illuminer votre journée. Donc vous pouvez réécouter, hein, c'est sur le site de la radio qui s'appelle Sirius XM, Bruce Springsteen qui vous passe des disques et vous parle de cette époque troublée, comme il dit. Ça fait du bien.
Ouais, le boss quand même. Il y a quand même des pépites hein, qui interviennent dans cette période si troublée, comme il dit, et si particulière. Il y a quelques pépites qui donnent un peu le sourire. Merci à tous. Emmanuel Dutheil, Enedis, ils nous permettent d'avoir lumière et autres chaque soir, chaque jour. C'est votre invité ce soir, le directeur de crise précisément d'Enedis à 22h20 dans l'interview Echo, c'est sur Europe 1. Merci à tous les grandes voix, Xavier Yvon, Mickaël Darmon, le docteur Jimmy Mohamed, Emmanuel Dutheil.
À demain.
Je compte sur vous. À très vite. Merci.
À suivre, Nathalie Lévy.
Avec un journal complet, celui de Sébastien Krebs, c'est dans quelques secondes à peine, et puis en 19h30. Musique et aussi intimité. Oui, votre couple, on prend des nouvelles, on essaie de vous donner des conseils dans cette période de confinement. Comment vous faites, vous? Posez vos questions au 3921.
Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
Le pire semble passer dans le Grand Est, région la plus touchée jusque-là. Les experts le voient dans les chiffres. Confirmation à l'hôpital de Mulhouse. Nous y sommes dans quelques secondes.
Le virus jusque dans l'univers confiné d'un porte-avions. Une quarantaine de cas suspects sur le Charles de Gaulle qui est courte, du coup, sa mission.
Dans ce journal aussi, le courrier au ralenti depuis le début du confinement. La Poste annonce qu'elle va accélérer le mouvement.
Et puis la France qui accuse les Pays-Bas d'avoir fait capoter les négociations sur un plan de relance européen.
Et enfin les artistes qui se mobilisent en musique pour recueillir des fonds.
Et Anissa, du côté du ciel.
Très bleu demain avec beaucoup de soleil. Effectivement, c'est une journée printanière, voire même estivale dans certaines régions. Une journée qui va commencer avec quelques brumes et quelques brouillards. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Prenons donc la direction d'une ville qu'on suit de près hein, depuis le début de l'épidémie, Mulhouse, la ville qui a sans doute souffert le plus. Le confinement commence à payer et le pire semble passer dans cette région du Grand Est. C'est ce qu'estime le conseil scientifique. Tendance positive qui se vérifie, qui se confirme à l'hôpital de Mulhouse, Arthur Elmaché.
Et résultat, ça va un peu se calmer dans le ciel et sur les rails. Mulhouse était devenue un peu la capitale de l'évacuation sanitaire d'urgence. Eh bien, même si la réa est toujours et encore saturée, il faut le dire, le volume actuel de patients en réanimation, dit le chef du SAMU Marc Noiset en conférence téléphonique cet après-midi, excusez la qualité du son, le volume de patients ne justifie plus de passer par des avions militaires et autres TGV médicalisés.
Ça fait 8-9 jours qu'on a une régression progressive de l'activité, donc là ça a l'air de se confirmer, donc probablement qu'on est sur une forme d'épuisement progressif qui renvoie immédiatement à la nécessité d'un maintien du confinement, sans quoi, évidemment, le rebond serait terrible.
Terrible sur l'activité en réa et la mortalité des Alsaciens, dit-il. L'hôpital de Mulhouse se réorganise en permanence. Fin mars, il y avait 80% de Covid aux urgences. On est maintenant passé à 55%. Analyse du chef de service, les gens qui se sont interdits d'avoir recours aux soins à cause de l'épidémie sont de retour.
Arthur Mbaché, correspondant d'Europe 1 dans le Grand Est, où le directeur de l'ARS a été limogé aujourd'hui après des propos qui avaient choqué. À l'époque, il estimait, c'était il y a quelques jours, qu'il n'y avait pas de raison d'interrompre les suppressions de postes à l'hôpital de Nancy.
Alors, du mieux malgré tout dans l'Est, mais pas question de relâcher le confinement qui est appelé à durer encore. On attend bien sûr la prise de parole d'Emmanuel Macron, prévue demain à 20h, édition spéciale sur Europe 1. Mais le gouvernement travaille déjà sur le scénario de l'après, hein.
avec une piste qui est désormais sérieusement étudiée, celle d'une application que nous pourrions installer sur nos smartphones et qui nous préviendrait lorsqu'on croise un potentiel malade sur la base du volontariat et sans fichage, promet le gouvernement. En tout cas, de plus en plus de communes prennent déjà des initiatives, au moins pour fournir des masques à leurs habitants. À Nice, par exemple, 800 masques commandés et le port sera obligatoire, Frédéric Michel.
Et ces masques commandés à 3 sociétés françaises répondent à la norme AFNOR et sont validés par la Direction Générale de l'Armement. Des masques UNS1 pour les personnes en contact régulier avec le public et UNS2 pour tout le monde. Lavables, réutilisables 10 fois, ils seront distribués pour les plus fragiles directement à domicile et pour les autres munis de leur carte d'identité dans une 50aine de points dans la ville. Christian Estrosi.
Une fois la distribution effectuée et dès que le déconfinement sera mis en place par l'État, je prendrai un arrêté municipal rendant le port du masque obligatoire dans les espaces publics, un trottoir, une voirie, une place.
Et le maire de Nice insiste, ce masque ne doit pas être un prétexte pour sortir avant le déconfinement. Les Niçois et habitants de la métropole en seront équipés à partir du 17 avril, mais ils devront attendre la levée du confinement pour le porter. Par ailleurs, dès demain, une manufacture avec 33 couturiers volontaires va produire 10 000 masques par semaine. Un atelier qui doit permettre à la ville de se doter de réserves pour faire face à cette crise et peut-être d'autres à venir.
Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 sur la Côte d'Azur. Il n'y a pas plus confiné qu'un navire militaire. 1700 marins à bord du Charles de Gaulle. Et l'inquiétude ce soir parce qu'une quarantaine de cas suspects ont été détectés. Alors reste encore à les dépister. Mais la mesure a été prise immédiatement. Didier François, le porte-avions, écourte sa mission et rentre au port de Toulon.
Oui, c'est ça, parce que les médecins à bord ont constaté donc une quarantaine de marins présentaient des symptômes compatibles avec ceux du Covid-19. Et tous ces cas suspects ont été placés en confinement sous contrôle médical, évidemment, parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, le Charles, c'est presque 2000 personnes. Et il faut éviter une possible contagion au reste de l'équipage. Par ailleurs, un bâtiment de la Marine nationale, quand même, ça se compartimente assez vite, puisque ce sont des manœuvres qui sont répétées sans arrêt dans le cadre soit du branle-bas de combat, soit de la lutte contre les incendies. Et puis sur un porte-avions, il y a tout ce qu'il faut au niveau médical, réanimation, scanner, respirateur, tout ça servi par des soignants du service de santé des armées, donc pas d'inquiétude, d'autant que les cas jusqu'à, pour ce qu'on en sait, ne présentent pas de signes très graves. Et puis si vraiment il y avait une urgence, les hélicoptères permettraient une évacuation immédiate. D'ailleurs, une équipe de dépistage a été transbordée aujourd'hui sur le Charles, c'était cet après-midi, des experts en épidémiologistes qui vont à la fois tester les cas suspects et préconiser d'éventuelles mesures à prendre le temps que justement le porte-avions regagne son port d'achat, parce qu'effectivement l'état-major a jugé plus prudent de le faire rentrer en avance sur la date prévue de sa fin de mission, c'était le 23 avril, puisque la partie purement opérationnelle du déploiement était terminée. Le groupe aéronaval a été engagé dans la lutte antiterroriste en Syrie et en Irak de janvier jusqu'à ces dernières semaines, mais là il avait rejoint des manœuvres en Atlantique avec des marines alliées, donc il n'y avait plus aucune raison militaire à s'en tenir absolument au calendrier, et c'est donc le principe de précaution qui a été appliqué.
Didier François, merci. On vous retrouvera à 19h20 avec Nathalie Lévy demain dans Le Monde pour parler de l'effet de cette épidémie sur les trafics de drogue à travers la planète. Vous l'avez probablement constaté chez vous à la maison, le courrier tourne au ralenti depuis le début du confinement. Il faut s'armer de patience, il manque un quart des agents à la poste. Mais la poste promet des améliorations. Olivier Samin, elle va mobiliser de nouvelles équipes?
Oui, d'abord la tournée des facteurs. Depuis 2 semaines, elle n'est effectuée que 3 jours par semaine, le mercredi, le jeudi et le vendredi. On parle là du courrier et des colis. La direction de la Poste affirme que cette fréquence va être progressivement augmentée, mais ne fixe aucune date pour le retour à 5 jours. Elle est plus précise pour la distribution des journaux. Depuis le début de cette semaine, on est repassé à une fréquence de 4 jours et ce sera 5 jours à compter du 15 avril. Quant à la réouverture des bureaux de poste, elle se poursuit. Au début du confinement, 1600 bureaux seulement avaient été maintenus ouverts sur l'ensemble du territoire. 1600 sur un total de 7700. Depuis le début de la semaine, leur nombre est passé à 1850 pour garantir le bon déroulement du versement des prestations sociales. Cette opération est en cours d'achèvement et la direction de la Poste s'engage à poursuivre la réouverture des bureaux. À la fin de la semaine, on arrivera à 2500 bureaux ouverts et à un total de 5000 à la fin du mois, avec, promet le patron de la Poste, Philippe Val, une priorité donnée aux zones rurales et aux quartiers prioritaires de la ville.
Olivier Samin du service économie d'Europe 1 et le président de la Poste, Philippe Val, sera l'invité de la matinale de Mathieu Béliard demain à 8h30.
Oui, la France est officiellement entrée en récession et le chiffre est spectaculaire, moins 6% au premier trimestre, estime la Banque de France. C'est du jamais vu hein, depuis 1945.
Et même dans cette tempête, les Européens ne parviennent pas à s'entendre sur la riposte commune à apporter nuit blanche de négociations jusqu'à ce matin pour les ministres des Finances de la zone euro en visioconférence et toujours pas de solution. Isabelle Horry, vous suivez ces discussions depuis Bruxelles. La France accuse ce soir les Pays-Bas. Pourquoi? Ce sont eux qui bloquent?
Oui, à en croire Paris, tout serait de leur faute. L'attitude des Néerlandais est incompréhensible et pas à la hauteur des événements, tempête l'Elysée. Ce qui coince, ce sont les conditions des prêts proposés aux pays qui souffrent le plus. L'argent est là, pourtant plusieurs centaines de milliards d'euros, une réserve constituée en 2012 pendant la crise financière. En théorie, pour en bénéficier, il faut accepter un programme de réforme comme ceux imposés à l'époque à la Grèce. Hors de question, clament depuis des jours l'Italie et l'Espagne. Par solidarité, même l'Allemagne est donc prête à assouplir les conditions, mais les Pays-Bas, eux, résistent. Et à l'aube, ils résistaient toujours, avec sans doute un soutien en coulisses de quelques pays nordiques. Depuis le début de la crise, le ministre hollandais des Finances endosse le costume du méchant. C'est lui, déjà, qui avait déclenché la colère de l'Espagne et du Portugal en demandant une enquête de la Commission européenne sur l'état de leurs finances. Bref, tout le monde a éteint son écran fâché ce matin. Il va falloir recommencer. Nouvelle tentative demain soir.
Isabelle Horry à Bruxelles, l'Union européenne qui par ailleurs veut prolonger jusqu'au 15 mai l'interdiction des voyages non essentiels vers l'Union. En Grande-Bretagne, cette fois, l'état de santé de Boris Johnson s'améliore, c'est ce que dit son ministre des Finances. Il peut désormais s'asseoir sur son lit, parler avec les soignants. Le Premier ministre est toujours en soins intensifs. Le Royaume-Uni a passé aujourd'hui la barre des 7000 morts. Aux États-Unis, nouveau record de mortalité à New York, près de 800 morts en l'espace de 24 heures, 13 000 décès au total dans le pays. Et en pleine épidémie, l'affiche de la prochaine présidentielle qui se dessine, elle est prévue en novembre, et c'est Joe Biden, l'ancien vice-président d'Obama, qui affrontera Donald Trump. Ça y est, on le sait, parce que Bernie Sanders abandonne la primaire démocrate. Il promet de travailler avec lui.
Et on vous parle souvent depuis le début du confinement de cette recrudescence de violence conjugale. Elle est bel et bien réelle, puisqu'en hausse de 30%.
Et comment donner l'alerte en cette période de confinement? Les pharmaciens peuvent maintenant recueillir la parole des victimes discrètement. Et depuis cette semaine, des points d'accueil éphémères ont été installés dans des galeries marchandes, dans les centres commerciaux. L'un tout près de Lille, Lionel Gougelot, à Villeneuve-d'Ascq. Et le dispositif semble déjà faire ses preuves.
Eh bien oui, parce que par exemple, dès les premières heures d'installation de ce point d'accueil dans la galerie marchande d'un supermarché Auchan, une femme a profité de quelques minutes hors du domicile en allant faire ses courses pour alerter sur les violences dont elle était victime. Delphine Beauvais, directrice de l'association Solidarité Femmes Accueil.
Nous avons reçu une dame victime d'un acte extrêmement violent de la part du conjoint qui l'a amenée à passer une nuit dehors et à se présenter à la première heure. Nous avons pu mettre cette femme à l'abri dans un de nos hébergements d'urgence.
Alors en trois jours, par téléphone ou directement dans la galerie marchande, une dizaine de femmes ont été prises en charge ou conseillées. La preuve que cet accueil, facilement accessible, en milieu ouvert, est particulièrement pertinent.
Ça peut être effectivement une possibilité de se mettre immédiatement à l'abri. Ça peut être aussi venir déposer en tant que voisin, ami, famille, une situation sur laquelle on n'est pas sûr, mais peut-être parce qu'on entend quand même des cris, parce qu'on entend quand même du bruit, donc qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai envie de dire qu'au regard de ce que nous rencontrons actuellement, avec ces périodes de confinement, toutes les initiatives et toutes les solutions sont intéressantes à tester en fait.
Pour l'instant, dans le département du Nord, un seul point d'accueil éphémère est ouvert. C'est pourtant l'un des départements qui connaît les taux de violence conjugale les plus élevés.
Les précisions de Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans le Nord. Et vous, votre morale chez vous, eh bien, il est en baisse selon notre baromètre, 21e vague de ce baromètre que nous élaborons avec BVA et Orange. La note moyenne que vous donnez à votre morale à la maison, 6,2 sur 10, en baisse. Le niveau de confiance des salariés et des indépendants en l'avenir de leur entreprise est au plus bas, tout comme la confiance des Français en la capacité du gouvernement à gérer la crise. Et ce chiffre n'a jamais été aussi bas, 33%.
Et les artistes, pendant ce temps, qui se mobilisent. Patrick Bruel était mon invité tout à l'heure sur Europe 1. Ils sont 350 à avoir participer à une chanson, ce titre inédit. Ça s'appelle « Et demain » et ce n'est pas la seule initiative.
Une trentaine d'autres artistes ont décidé de faire leur part, rassemblés autour d'Arthur H notamment, pour un album collaboratif dont les bénéfices vont aller là aussi à la Fondation de France. Angèle Châtelier.
Oui, on voit beaucoup d'artistes depuis le confinement qui font des concerts depuis chez eux, mais alors cet album, ce ne sont que des morceaux originaux créés ces dernières semaines par une trentaine d'artistes français. Cet album s'appelle Musique pour confinement. Chaque morceau est plutôt instrumental, mélancolique et surtout très doux, comme la chanson d'Arthur H qu'il a appelée Paris la silencieuse. Il y a aussi le chanteur de pop, Petit Fantôme, qui ne croit pas vraiment à ce qui nous arrive et a voulu baptiser son morceau Réveille-moi. Cet album collaboratif a été créé à l'initiative de Romain Delahaye, un artiste de musique électronique qui a pour nom de scène Molécule. Un habitué du voyage qui a composé son premier album sur un bateau, en pleine mer. Et il est surtout très engagé, notamment pour le climat. Avec ce disque, il veut rappeler l'importance de la biodiversité et surtout après cette crise sanitaire.
Le récit d'Angèle Châtelier, voilà le confinement qui suscite la créativité. Il y aura peut-être un album pour tous les gens qui jouent à leur fenêtre, peut-être un jour ou l'autre.
Exactement, on voit bien qu'il y a balcon pour un champion, enfin on voit en tout cas un pléthore d'initiatives comme ça, donc qui sait, vous vous êtes mis à la fenêtre pour chanter ? Allez.
Non, pour applaudir. Oui.
Applaudir, ça, voilà, ça ne m'étonne pas de vous. Merci Sébastien, 19h30, on vous rappelle des titres, Anissa, peut-être que ça va donner des envies de chanter ce temps, avec quand même quelques brouillards demain matin.
Oui, alors il faut trouver un petit bémol parce que sinon la météo dure 2 secondes et je vous dis il fait beau, ciao, au revoir. Non, nous aurons quand même sur les côtes de la Manche, en Vendée et sur le Languedoc une journée qui va commencer avec quelques nuages bas, des brumes et des brouillards, mais rassurez-vous, ils vont vite se dissiper ces nuages dans la journée pour laisser place à un très beau soleil sur l'ensemble de la France. Dans l'après-midi, donc vous l'avez compris, c'est le soleil qui domine avec tout de même sur le quart nord-ouest, sur la Bretagne et le Cotentin, un petit peu plus de nuages qu'ailleurs et puis dans le nord-est aussi en Alsace et en Franche-Comté, ça sera un petit peu plus nuageux, mais rassurez-vous, il fera beau sur les Pyrénées. Des petites averses sont attendues demain, mais uniquement sur les reliefs. Le vent d'autant, il souffle toujours, il fait beau, mais le vent souffle dans le sud jusqu'à 60 km/h. Les températures, je vous le disais en début de journal, elles sont bien au-dessus des normales de saison. Nathalie, écoutez bien, demain matin, nous aurons, alors c'est encore frais, notamment au bord de la Méditerranée, 4 degrés à Avignon, c'est frais dans l'Est aussi avec 6 degrés à Épinal et Chambéry, 7 à Marseille. Mais alors dans l'après-midi, de très nombreuses villes seront au-dessus des 25 degrés avec 25 à Besançon, Rennes et Clermont-Ferrand, 26 pour Strasbourg et Paris, 27 à Angoulême, c'est la maximale. Et puis en bord de mer, il fera plus frais avec 20 à Nice et 23 à Vannes. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy jusqu'à 20h et à 19h15. Vous recevez votre invité politique, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure.
Bonsoir Olivier Faure.
Bonsoir Nathalie Lévy.
Merci d'être en direct à mes côtés sur Europe 1, mais à distance bien sûr. Alors Olivier Faure, il y a évidemment beaucoup de sujets ce soir, plus encore. On est à la veille de la nouvelle allocution d'Emmanuel Macron, vous allez me dire ce que vous attendez dans un instant. Mais d'abord, plusieurs pays ont déjà sauté le pas. En France, le gouvernement n'est pas loin de mettre au point une application de traçage. On en parle depuis plusieurs jours déjà. Elle pourrait même peut-être être disponible dès la semaine prochaine. Mais attention, sans fliquer les citoyens. Qu'est-ce que vous en dites, vous? Quel est votre sentiment là-dessus?
Moi, a priori, sur les questions de liberté publique, je suis extrêmement méfiant parce que nous sommes une démocratie, nous avons la chance de vivre dans un pays où nous sommes libres et où personne ne sait ce que vous faites quand vous avez quitté Europe 1 et c'est très bien ainsi. Donc, méfiance a priori. En même temps, je comprends bien que ça peut être une solution et donc je demande simplement, non pas un discours, mais des garanties. Oui, des garanties sur le fait que ça ne sera pas utilisé à d'autres fins que des fins sanitaires, qu'il n'y aura pas la possibilité pour un organisme privé ou public de récupérer les données, de faire en sorte que ça reste bien sûr anonyme et que ça soit contraint dans le temps et qu'à l'issue de l'épidémie, évidemment, cette application disparaisse définitivement. Voilà quelques éléments. Je veux voir.
Donc pas d'opposition Ok, donc pas d'opposition radicale, vous attendez des garanties, effectivement une durée limitée, c'est dans ce sens-là aujourd'hui que vous êtes, et c'est un peu dans le sens finalement que vous êtes depuis le début de cette crise, j'allais dire, au Parti Socialiste, pas d'opposition pour l'opposition. Vous dites quoi ce soir à Emmanuel Macron, le président qui va s'exprimer demain pour la troisième fois depuis le début de cette crise? Quelle est votre place aujourd'hui précisément? Vous soutenez le gouvernement ces mesures?
Il ne s'agit pas de soutenir ou de ne pas soutenir, et je n'aime pas beaucoup le même, y compris l'expression d'unité nationale que j'ai moi-même utilisée, mais qui ne décrit pas complètement la situation. Moi, je me sens solidaire de toutes celles et ceux qui aujourd'hui se battent contre le virus. C'est d'abord ceux qui sont les premiers de tranchée, ceux qui sont sur le front sanitaire, mais ce sont aussi nos gouvernants. Et donc, dans un moment où la parole publique est tellement dévaluée, même disqualifiée, où le pouvoir d'ailleurs a beaucoup fait lui-même pour se disqualifier, en ayant des contre-pieds fréquents sur un certain nombre de sujets, les masques...
Sur les masques, par exemple,
etc. Et donc... je ne veux pas en rajouter parce que nous avons besoin de repères et parce que nous avons besoin, en ce moment particulier, encore de cohésion pour pouvoir avancer.
Mais quand même, Olivier Faure, sur les masques, parce que vous êtes aussi père de famille et parce que vous êtes un citoyen qui s'inquiète pour lui, pour ses proches, qu'est-ce que vous dites aujourd'hui sur cette situation des masques qui n'arriveront, les masques en provenance de Chine, qui n'arriveront qu'au mois de juin? En France, fabrication en cours, mais avec, on voit bien, des limites, plus que des limites, puisque les Français sont obligés d'en coudre à la main ou à la machine, d'en faire eux-mêmes. Quand même, votre position là-dessus et votre inquiétude?
Mais les deux à la fois, et même y compris les pistes d'action, parce qu'elles existent. Ce que j'ai demandé au Premier ministre, ce que j'ai écrit au Président de la République, c'est que ce que je ne comprends pas, c'est qu'aujourd'hui on nous a parlé de guerre contre le virus, très bien, reprenons le terme. Eh bien, si on en reprend le terme, il faut aller jusqu'au bout et expliquer qu'il faut aussi, parallèlement à cette guerre, à cet effort de guerre à produire, une économie de guerre. Et ça suppose quoi? Ça suppose d'aller jusqu'à réquisitionner des industries qui aujourd'hui ne produisent pas de masques, mais qui peuvent en produire. J'étais au téléphone il y a quelques instants avec Pierre Jouvet, qui est le président de la communauté de communes de Drôme-Ardèche. Eh bien, ils ont réussi à faire produire dans sa communauté de communes des dizaines, des centaines de milliers de masques par une entreprise dont ce n'était pas l'activité principale, une entreprise textile, mais qui s'y est mise et qui en a fait son activité pendant la durée.
Mais alors, comment vous expliquez qu'aujourd'hui on n'en est pas là? Comment vous expliquez qu'aujourd'hui on n'en est pas là? Parce que des entreprises capables d'en fournir, effectivement, en France, il y en a pléthore. Jean-Luc Mélenchon, ce matin, dans la matinale d'Europe 1, a appelé à une réquisition des entreprises textiles. Est-ce que vous parlez le même langage?
Mais ça fait déjà plusieurs jours, je n'ai pas attendu Jean-Luc Mélenchon pour appeler le gouvernement, effectivement, à produire cette économie de guerre et à réquisitionner.
Lui, il parle d'une réquisition, oui.
Oui, c'est ce que j'ai. Ah, oui. J'ai même interrogé directement le Premier ministre sur cette question-là, il y a maintenant plus de 10 jours à l'Assemblée.
Et quelle est la réponse, alors?
Mais pas de réponse, et je ne le comprends pas. La réponse, à chaque fois, c'est de nous dire que il y a un consortium qui s'est créé avec PSA, un certain nombre d'entreprises automobile pour fabriquer des respirateurs, très bien, mais encore faudrait-il qu'ils en produisent un nombre suffisant. Et sur la question des masques, ça n'est pas compréhensible parce que, y compris, chacun le saisit bien aujourd'hui, la question des masques est une question qui va être liée aussi aux conditions du déconfinement. Nous ne pourrons pas réellement déconfiner la population française si nous n'avons pas en masse des tests et des masques. J'en reviens à votre question initiale, Nathalie Lévy, je vous arrête une seconde. Mais sur la question que vous avez évoquée sur le tracking et sur cette fameuse application, mais ça n'est pas l'application, elle n'est pas miraculeuse. Ça, c'est ce que vous l'avez dans votre smartphone, que vous allez être guéri de quoi que ce soit. Le vrai intérêt de cette application, c'est que quand vous êtes vous-même Covid-19,
l'application
prévient... Exactement. Tous ceux qui ont été en contact avec vous pour qu'ils se mettent eux-mêmes en quarantaine. Mais pour que vous le sachiez, il faut encore que vous soyez testé. Si vous n'êtes pas testé, vous pouvez être porteur sain sans avoir aucune idée de votre viralité. Et donc, ça ne sert à rien. Ouais. Et donc, cette application n'a d'intérêt que si nous avons testé.
Que si nous avons les tests en amont, bien entendu. Olivier Faure, on parle bien entendu d'économie, on voit les difficultés, on a entendu les chiffres annoncés de récession dramatique, des chiffres comparables à 1945 par Bruno Le Maire. Je voudrais vous parler d'un élément, parce qu'on a vu aussi le retour d'Arnaud Montebourg à la la une de la presse ce matin, qui appelle au retour d'un État protecteur qui a fait ses preuves en Asie, par exemple. Quel modèle d'État pour l'économie de demain? Parce qu'il faut bien parler de demain, on en parle, pas seulement du déconfinement, mais notre économie demain. Un repli national?
Absolument pas. Moi, je continue à croire que l'échange est utile, mais pas dans les conditions dans lesquelles il se fait aujourd'hui. Et donc, évidemment, il faudra d'abord penser à relocaliser des productions qui sont stratégiques. Donc, comment peut-on accepter de dépendre de cette façon-là de l'Asie pour nos masques, pour nos médicaments, pour nos molécules? Il y a vraiment là un sujet qui est incompréhensible. Comment a-t-on pu, à ce point-là, spécialiser certains territoires et accepter cette dépendance et créer notre propre impuissance
mais
du
vous
moment
dites comment, donc, vous dites comment? Mais pardonnez-moi, Olivier Faure, mais vous vous souvenez, 2012-2017, sous François Hollande, Whirlpool, il y en a eu des délocalisations vers la Pologne, vers plein d'autres pays, Goodyear, tout ça c'était bien sous François Hollande, ça date pas là de ce dernier gouvernement ou des gouvernements de droite. Des délocalisations, il y en a toujours eu.
Bien sûr, non, mais moi je ne dis pas qu'il n'y en aura plus jamais. Je ne suis pas là pour vous vendre la poudre de perlimpinpin. Je ne suis pas en train de vous dire que désormais nous allons nous replier sur nous-mêmes et que tout sera produit en France. L'évidence, c'est que ça ne sera jamais le cas. Ben, ne serait-ce que parce que toutes les entreprises ne peuvent pas produire. Il faut trouver un marché suffisamment important pour pouvoir baisser les coûts. Et donc, évidemment, il y a des productions qui ont besoin de s'exporter. Et c'est vrai pour nous, c'est vrai pour les autres. Donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi. Je vous parle là simplement des industries qui sont essentielles à notre propre immunité, j'allais dire. En fait, c'est la question de la santé. Comment est-ce qu'il est possible de ne pas avoir des molécules qui ne soient plus produites en Europe et qui soient produites à l'autre bout du monde? Et imaginez qu'il y ait une guerre commerciale, qu'il y ait une guerre tout court, enfin, qu'on soit dépendant à ce point-là de l'extérieur. Ça, c'est un problème, effectivement. Après, il y a bien sûr des entreprises qui continueront à avoir des activités à l'étranger.
Juste un mot, pardonnez-moi, Olivier Faure, il faut qu'on conclue. Simplement, j'apprends à l'instant que Emmanuel Macron ne prendra pas la parole, finalement, ce soir. Ça aurait dû être sa troisième allocution depuis le début de ce confinement. On aurait peut-être pu espérer des annonces sur les masques ou sur la date du déconfinement, ou en tout cas la prolongation du confinement. Alors voilà, j'apprends la nouvelle et je vous la soumets au même titre là que ma surprise à l'instant. On voit bien qu'il y a un changement de braquet assez récurrent depuis le début de cette crise pour l'exécutif.
Il y a un changement perpétuel et qui est devenu problématique parce que ce qu'on a besoin d'avoir en ce moment-là, c'est de beaucoup de stabilité et de transparence. Ce qui est incompréhensible, c'est d'avoir à chaque fois des décisions qui tombent du ciel. En réalité, tout le monde s'imagine bien que le confinement ne s'arrêtera pas la semaine prochaine. Et ça fait déjà plusieurs semaines que le côté scientifique a déjà annoncé qu'il faudrait à minima 6 semaines. La question, c'est pourquoi est-ce que le gouvernement ne dit pas, ne donne la vérité au compte-gouttes, et pourquoi il ne dit pas tout de suite quelle est la stratégie que l'on pose pour se sortir de cette crise sanitaire? Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas en mesure de former ce que j'ai appelé de mes voeux, c'est-à-dire une forme de conseil national, oui, par analogique, le conseil national de la résistance? Comment est-ce qu'on met autour d'une table des gens qui ont envie de travailler et qui ne sont pas forcément d'accord? Il ne s'agit pas de fabriquer un gouvernement d'union nationale, mais de chercher quelles sont les pistes qu'on met sur la table, monde syndical, monde associatif, partis politiques, tous, hein, et merci, de faire en sorte que quelque chose se produise et que, effectivement, demain ne ressemble pas à hier. Malheureusement, si rien ne se passe, ce sera difficile.
Merci beaucoup Olivier Faure de nous avoir répondu, de m'avoir répondu ce soir sur Europe 1 en direct, et on vous a entendu notamment sur le tracking, demander des garanties mais ne pas y être opposé, hein, viscéralement. Merci à vous, merci.
Europe 1.
Instant sur Europe 1 avec vous Nathalie Lévy.
Alors demain en France, demain dans le monde, et puis votre couple, comment ça fonctionne avec le confinement? On en parle juste après.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1, Nathalie Lévy. Et comme chaque soir avant 19h30, on prend un temps d'avance avec vous et on s'intéresse à ce qui va se passer demain en France.
Demain en France, Jean-Pierre Montanet, vous êtes à l'heure et au rendez-vous. Bonsoir Jean-Pierre.
Bonsoir Nathalie.
Alors au début du confinement, la Banque de France avait redouté une pénurie d'argent liquide. Mais en fait, les consommateurs utilisent de plus en plus leur carte bancaire. Bah oui, c'est mieux pour aussi les microbes sur les doigts, hein.
Exactement. Alors, il faut dire que dès le lendemain de l'annonce du Restez chez vous, hein, notre pays avait été secoué par une certaine fébrilité. Vous vous en souvenez, avec une ruée sur les pattes, hein, sur le papier toilette. Et c'est vrai aussi sur l'argent liquide. Cela n'a pas duré. L'idée ou la rumeur que le virus pourrait se transmettre via le billet de banque a subitement flingué le cash. La preuve, dans la semaine du 23 au 29 mars, les retraits au DAB, ces distributeurs automatiques, ont littéralement dégringolé de 60%, de 76% même à Paris. C'est vrai que les Français consomment moins, mais la chute est spectaculaire. Pour les courses de tous les jours, ils dégainent donc en priorité la carte bleue.
Et oui, et avec évidemment un usage de plus en plus fréquent du sans contact, ça va de soi.
Oui, vertu du corona, il bouleverse nos usages et nos habitudes, envolé les résistances psychologiques liées à la fraude. Le sans contact cartonne, plébiscité, encouragé même par Bercy qui incite les commerçants à le systématiser. Nathalie, vous avez pu le constater comme moi, chez le boulanger, pour une baguette tradition à 1,20€, le boulanger vous tend désormais la machine, alors qu'auparavant, il fallait dépenser au moins 15 ou 20 euros. Les paiements sans carte ont donc progressé de 4% depuis le confinement, et sans doute de beaucoup plus dans les grandes villes. Cela concerne surtout des achats en boulangerie et en pharmacie. J'ai eu accès à des relevés confidentiels d'une grande banque. Avant le confinement, 58% de leurs transactions par carte en dessous de 30 euros étaient sans contact. Depuis deux semaines, on est plutôt proche de 65%. Et un banquier m'a confié que sous l'égide de Bercy, les banques et le groupement des cartes bancaires discutent en ce moment même pour relever le plafond à 50 euros.
Et quid du paiement par mobile? Parce que ça aussi, ça devrait s'envoler. Ça profite ou pas du contexte?
Alors le patron de Paylib, société de paiement par mobile, indique dans le Figaro ce matin que depuis le 20 mars, les paiements via le téléphone ont augmenté de 15 à 20%. Même constat dans cette grande banque qui décèle sur ses graphiques un frémissement. Au final, cela reste quand même très marginal. La France en est encore à l'âge de Cro-Magnon par rapport à des pays comme la Chine où payer avec son smartphone est une évidence. Les banques comptent bien profiter de cette défiance à l'égard du billet papier pour faire la promo de ce type de paiement, essentiellement utilisé par de jeunes urbains biberonnés au portable. Mais pourtant tellement simple, il suffit de télécharger une application, en guise de code, une signature biométrique, et là, pas de plafond de montant. Allez, je m'y mets demain, Nathalie. Vu comme ça, on se dit que les jours du bon vieux billet de banque sont bel et bien comptés.
Ah oui, ça c'est sûr. Bon, écoutez, ça fera plus de place dans le porte-monnaie. Merci beaucoup Jean-Pierre Montanet. À demain.
Au revoir Nathalie.
Au revoir. Demain dans le monde, Didier François au rendez-vous également. Bonsoir.
Oui, bonsoir Nathalie.
Nous continuons de suivre avec vous l'épidémie du Covid partout à l'étranger, avec ses effets parfois inattendus. Regardez, l'une des conséquences de la fermeture des frontières, mesure prise pour combattre la maladie, c'est l'assèchement des flux traditionnels du trafic de drogue.
Oui, effectivement, sale temps pour les narcos, les narcotrafiquants, puisque les mesures exceptionnelles prises dans le monde entier pour contenir la propagation du virus, agissent finalement comme une sorte d'opération planétaire contre la drogue, puisque non seulement un nombre très conséquent de pays ont fermé leurs frontières, mais ils ont également durci leurs contrôles, ce qui a eu pour effet, par exemple, d'interdire toutes les opérations de GoFas, vous savez, ces livraisons de cannabis chargées dans des bolides au Maroc qui traversent l'Espagne à grande vitesse en direction de la France. Eh bien, tout ça est pratiquement à l'arrêt depuis le 15 mars. Et toutes les agences européennes font le même constat. C'est ce qu'elles font remonter à Europol. Malte, par exemple, qui est une île et un pays en première ligne en Méditerranée, a vu très fortement baisser le montant de ses saisies parce que ses ports tournent au ralenti, donc moins de bateaux, de containers, moins de voiliers en provenance de Sicile, parce que les compagnies aériennes ont pratiquement suspendu tous leurs vols, donc pratiquement plus de mules. Vous savez, ces passagers qui sont payés pour faire passer des petites quantités de cocaïne depuis l'Amérique latine.
Et donc cela a également un gros impact sur les cartels, de fait.
Oui, les experts de l'ADEA estiment qu'ils sont déjà sur des pertes de l'ordre de 10 à 15% de leurs profits, donc entre 3 et 5 milliards de dollars, sachant que le narcotrafic, c'est 30 milliards par an. Et le cartel le plus touché, bien évidemment, c'est le cartel de Sinaloa au Mexique, qui produit lui-même du cannabis, mais qui est surtout le transporteur pour l'ensemble des cartels en direction des États-Unis ou de l'Europe. Et c'est ça qui explique l'assèchement de la distribution au niveau mondial, que ce soit pour la cocaïne colombienne ou surtout pour les substituts en opiacés de synthèse, qui sont le fentanyl, par exemple, ou la méthamphétamine, qui sont fabriqués en Chine, et particulièrement dans cette région de Hubei, où selon l'ADEA, il y avait 5000 laboratoires, mais où toute activité a cessé depuis l'apparition du Covid-19, justement dans cette région, au mois de décembre dernier.
Eh oui, on suivra ça avec vous, on continue chaque soir. Merci beaucoup Didier François.
Europe 1.
Restez avec nous sur Europe 1, votre grand journal du soir jusqu'à 20h avec la suite du programme, Nathalie Lévy.
Votre rappel des titres pour commencer, Sébastien Krebs.
1632 décès depuis le 1er mars, annonce à l'instant le ministère de la Santé. Le nombre de patients en réanimation relativement stable à 7148. Le secteur aérien à terre, le géant européen Airbus va réduire d'un tiers sa cadence de production d'avions pour s'adapter à une chute attendue des commandes. Un chiffre à retenir ce soir, la France en récession. Le PIB s'effondre de 6% au premier trimestre selon la Banque de France. En Grande-Bretagne, l'état de santé de Boris Johnson s'améliore. Le Premier ministre toujours en soins intensifs alors que le pays a connu aujourd'hui un record de mortalité, plus de 900 décès en 24 heures. Aux États-Unis, Joe Biden appelle les partisans de Bernie Sanders à se rassembler derrière lui. L'ancien vice-président d'Obama sera le candidat démocrate face à Donald Trump en novembre. Sanders a jeté l'éponge. La situation se tend dans les entrepôts français d'Amazon. La CFDT appelle à la grève et Solidaires saisit la justice après des discussions infructueuses selon les syndicats sur la protection des salariés. L'ancienne star des Jeux télé, Christian Quesada, condamné à 3 ans de prison pour corruption de mineurs et détention de et diffusion également d'images pédopornographiques. Le procès s'est tenu par visioconférence et à huis clos devant le tribunal correctionnel de Bourg-en-Bresse. Enfin, après l'attaque au couteau de Romans-sur-Isère qui a fait 2 morts samedi dernier, l'assaillant présumé, un réfugié soudanais, est mis en examen pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Il est placé en détention provisoire.
Merci Sébastien. 18h demain.
À demain.
Ah bon, merci à vous, j'ai eu peur d'avoir une hésitation. Vous serez au rendez-vous. Et Anissa aussi, parce qu'en plus, il fait beau, donc toutes les raisons pour nous rejoindre.
Oh bah, demain, on est en t-shirt et en débardeur, hein, Nathalie, et sur voilà. L'ensemble de la France, il va faire très beau.
Confiné, mais court vêtu.
Mais voilà. Et puis alors, fenêtre grande ouverte partout, que vous soyez en maison ou en appartement, on aère demain. Il va faire vraiment très beau. C'est une journée printanière, voire même sur certaines régions estivales. Nous aurons quelques petits passages nuageux sur la Bretagne et le nord-est, le quart nord-est, l'Alsace, la Bourgogne, la Franche-Comté. Voilà, des petits passages nuageux, mais rien de très inquiétant. Sur les Pyrénées, quelques gouttes, mais en altitude seulement, juste sur les reliefs. Attention au vent d'autant qui souffle toujours sur le Languedoc-Roussillon et partout ailleurs. Bah, que dire, c'est un ciel complètement dégagé avec beaucoup de soleil et des températures et qui sont en train d'exploser les normales de saison puisque nous aurons sur une grande partie de la France plus de 25 degrés demain, 25 à Dijon et à Rennes, 26 à Périgueux, à Tours et à Paris, 27 pour Angoulême et puis un peu plus frais en bord de mer demain pour Nice par exemple où il n'y aura que 20 degrés ou 21 encore à Brest. La suite de votre grand journal du soir jusqu'à 20h avec vous, Nathalie Lévy. Et ce soir, on va s'intéresser aux couples qui se retrouvent confinés. On va parler de nous, on va parler de nos vies de confinés et on va parler de notre rapport à l'autre. Alors là, la musique, c'est quand ça se passe bien.
Ouais, c'est ça. Exactement. Alors, venez voir. Venez voir. Allez, on va tomber le voile ce soir. On va regarder un petit peu, effectivement, ce qui se passe de l'autre côté. Et sur les réseaux sociaux aussi, les humoristes, tiens, qui sont dans la cœur joie. Couple en confinement extrême, vous allez comprendre. Alors, ce sera pour un petit peu plus tard. C'est promis, on va accueillir nos invités. Catherine Solano, bonsoir, bienvenue. Vous êtes médecin et sexologue.
Bonsoir.
Vous m'entendez, vous êtes là. Merci.
Oui, votre je vous entends ouvrage. Bien.
Parfait. Le grand livre de la puberté aux éditions Robert Laffont. Marie-Estelle Dupont est également avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute. Se libérer de son moi toxique, votre dernier titre aux éditions Larousse. Et puis bien sûr, énormément d'appels ce soir et de témoins qui vont nous raconter un petit peu. Je voudrais déjà vous demander, Catherine Solano, à ce stade, 3 semaines de confinement, avec souvent le télétravail, les enfants à la maison, 3 repas par jour, les tâches ménagères, etc. Est-ce qu'on peut encore avoir un semblant de vie intime dans cette descriptif?
Oh ben bien sûr, parce que enfin on a un petit peu de tout. Moi je vois des couples qui sont confinés, qui sont hyper contents parce qu'ils sont ensemble depuis peu et qu'en fait ils n'ont pas besoin d'aller travailler, donc ils sont absolument ravis. Au contraire, je vois des couples qui me disent ben on avait décidé de divorcer juste avant le confinement, donc on est confinés ensemble et c'est très difficile. Donc vous avez un petit peu tous les cas de figure en réalité.
Ah très bien, donc ça peut aussi rapprocher effectivement. Marie-Estelle Dupont, je retourne, effectivement je prolonge en fait un petit peu cette idée de oui, on se sent finalement rassuré d'être avec la personne même si on a eu des hauts et des bas mais qu'on connaît bien, qu'on connaît peut-être le mieux.
Je pense que pour beaucoup de couples récemment ensemble, en fait, la décision de se confiner, comme elle a dû se prendre très très vite, les a fait passer effectivement à une vie commune qu'ils n'avaient pas prévue. Et comme disait Catherine, parfois il y a des bonnes surprises aussi dans le confinement. Moi, j'ai une patiente qui m'a rapporté récemment que le confinement lui permettait de retomber amoureuse de son mari parce qu'elle se rendait compte qu'il faisait mille choses et que ça leur donnait aussi du temps pour partager notamment les repas dans la semaine ensemble et que finalement ça leur permettait de prendre le temps, de réapprendre à prendre le temps.
Ouais, alors voilà, ça c'était pour la vision positive, hein, on est d'accord, mais il n'y a pas que du positif quand même. Je suis pas complètement passée à côté. Catherine Selonin, Marie-Estelle Dupont, on va avoir des témoignages, je plaisante beaucoup, mais je suis sûre que quand même, les tâches ménagères, elles sont là, elles sont bel et bien présentes, voire on fait le ménage plus que d'habitude parce qu'on est un peu devenu toqué avec ce Covid. Ça c'est quand même une vraie source de conflit, voire fréquente même en milieu confiné, Catherine Selonin, non?
Ah oui, alors les tâches ménagères, c'est certainement une source de conflit, mais pas seulement pendant le confinement, toute la vie, je crois, hein, dans beaucoup de couples. Et c'est quelque chose de très important par rapport à la sexualité, parce qu'on sait que plus un homme partage des tâches ménagères avec sa partenaire, plus sa partenaire a de désir. C'est lié, un homme qui ne fait rien à la maison, bah, sa femme, elle a beaucoup moins d'envie, tout simplement parce qu'elle se sent utilisée, elle se sent esclavagisée, et on n'a pas tellement de désir pour quelqu'un qui vous maltraite, en fait. Parce que c'est une sorte de maltraitance, hein, de compter sur l'autre, d'avoir un esclave à la maison. Donc, c'est vrai que c'est un moment de vérité, un petit peu, le confinement, parce qu'il y a des hommes qui disent « Ah, mais moi, j'ai plus de transport que toi, ou je suis plus occupée, ou je bricole, ou je fais autre chose. » Ben là, on est entre quatre murs et on voit si c'est réellement quelqu'un de bienveillant, votre conjoint, parce que c'est souvent les hommes qui en font moins, mais c'est pas toujours le cas, ceci dit. Hein. Et du coup, si on se... Non, tout à fait. Moi, personnellement, je suis pas très ménagère, c'est plutôt mon conjoint qui est bon. Voyez, donc ça, c'est... Non, c'est ça. Je tiens à le dire, tout le monde n'est pas... Voilà, mais ça rééquilibre. On voit un petit peu... D'ailleurs, c'est le moment de refaire le point quand ça se passe pas bien, parce que c'est quelque chose de très important, parce que si on n'est pas bien à ce niveau-là, au niveau du partage des tâches et de ce qu'il y a à faire, eh bien, ça se ressent dans la sexualité parce que le relationnel... joue sur la sexualité.
Bien sûr. Alors, je vais vous demander des conseils assez pratiques dans quelques instants à toutes les deux, Marie-Estelle Dupont, Catherine Selonin, pour essayer à la fois d'entretenir la flamme, de passer à côté de la crise, de pas péter les plombs, comme on dit, avec des témoignages aussi, avec Marie, entre autres, qui nous appelle, qui est en Charente. On se retrouve, ne bougez pas, on se retrouve dans un tout petit instant.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 et jusqu'à 20h ce soir, on s'intéresse au couple, ce couple qui se retrouve en face à face pendant le confinement. On parle de nous, de notre rapport à l'autre, de notre sexualité avec votre invitée Nathalie Lévy.
Oui, deux invités ce soir, Catherine Selonin, médecin et sexologue, Marie-Estelle Dupont, psychologue, clinicienne et psychothérapeute. Nos témoins, Marie entre autres, qui nous appelle depuis l'Aquitaine, la nouvelle Aquitaine en Charente précisément. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Alors, bienvenue à vous. Marie, vous êtes secrétaire médicale. À l'heure actuelle, je crois que vous êtes en recherche d'emploi. Enfin, pas précisément là maintenant, mais toujours en recherche d'emploi. Comment ça se passe à la maison?
Bah, écoutez, ça se passe plutôt bien. La première semaine a été compliquée pour tout le monde. Pour les enfants, il y a eu des crises de larmes de ne pas voir les copains-copines.
Ouais.
Voilà, donc ça a été un peu compliqué. Beaucoup de devoirs d'un seul coup. Donc il a fallu mettre tout ça en place. Donc la première semaine c'était pas mal de stress, de tension.
D'accord.
Et puis d'après la deuxième semaine, on a essayé de faire en sorte que ça se passe bien, que ça soit un petit peu plus cool, de mettre un planning en place. Donc les devoirs le matin, des activités l'après-midi, coloriage, jardinage.
Et alors au niveau du couple, comment ça se passe? Parce que j'imagine que voilà, la gestion des devoirs, par exemple, parfois dans certains cas, l'un des deux parents veut en faire trop, l'autre pas assez, etc. Est-ce que ça a pu être un sujet? Et puis tout le reste, votre intimité, comment vous gérez?
Alors, mon compagnon, déjà, il fait du télétravail, donc c'est un peu plus compliqué pour lui de gérer les devoirs. Donc c'est plus moi, on va dire, qui m'occupe de nos filles pour les devoirs. Voilà, puis l'après-midi, je vous dis, chacun a ses activités. Lui aime beaucoup les jeux vidéo, donc ça lui permet aussi de se retrouver un petit peu de son côté, de décompresser. Et puis, moi, je gère les activités avec
les enfants. Donc, pas de changement. En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il n'y a pas de changement radical dans votre couple. En tout cas, ça n'a pas impacté négativement votre foyer.
Non, juste la première semaine. Voilà, il y avait des petites tensions. Juste la première semaine.
Mais après, on a trouvé le réglage et on y est arrivé. Voilà, merci à vous, Marie. On a un témoignage également à Anissa sur Twitter, je crois, ou une question.
Question effectivement d'Estelle qui dit pendant le confinement nous nous sommes beaucoup rapprochés, nous ne sommes pas pollués par l'extérieur. Quand le confinement va s'arrêter, comment garder cette symbiose?
Alors, mesdames, peut-être...
c'est intéressant, comme quoi oui. Le confinement c'est pas uniquement catastrophique. Bien,
oui. Moi, ça m'a frappé en fait d'entendre dans le témoignage de Marie tout le respect qu'il y avait en fait dans sa parole vis-à-vis de son conjoint, où elle dit bah voilà, les jeux vidéo lui permettent de se retrouver. Et je pense qu'en fait, elle a la clé d'un confinement qui se passe assez sereinement, c'est-à-dire que comme on est en huis clos, de toute façon, si on envoie des émotions négatives, elles vont nous revenir en fait en boomerang très très vite dans la figure. Elles vont pas aller s'expulser dans le sport ou sur un collègue. Et finalement, chacun a respecté. Ils ont dû jongler certaines. Avec l'aménagement de l'espace, vu que son conjoint est en télétravail, il a besoin de silence à certains moments. Mais j'ai l'impression qu'ils sont vite retombés sur leurs pattes et qu'il y a un certain, finalement, une certaine souplesse, une certaine fluidité. Ouais. Voilà. Après, pour la symbiose, moi, j'ai pas trop d'inquiétude parce que je pense que ce qu'on aura mis en place et acquis, en fait, pendant le confinement, d'abord, on va découvrir qu'on en était capable alors qu'on pensait ne pas l'être. Cette créativité dont on aura fait preuve, moi je crois que quand on sort d'une épreuve, si elle nous a pas achevé, on est plus fort. Ouais.
Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites.
Complicité.
Oui. Alors Marie-Estelle Dupont, ce qu'on a beaucoup entendu avec évidemment Wuhan et puis la Chine et la population qui a été confinée, c'est que les divorces ou à l'inverse, même peut-être parfois les grossesses, mais quand même souvent les divorces pouvaient exploser après la fin de la quarantaine. C'est à craindre ?
Je pense. Les divorces vont exploser chez les couples qui déjà avaient des germes de difficultés entre eux, et le confinement va les mettre face à face. Si ça n'allait déjà pas bien, ça peut être encore pire. Mais ça peut être aussi parce que moi j'ai des couples qui, dans mes patients, j'ai des couples qui ça n'allait pas bien et qui m'ont contacté en me disant le confinement c'est formidable pour nous parce que ça nous a permis de remettre tout à plat. Donc c'est aussi une question d'intelligence à gérer les situations.
Alors une autre question. Marie-Estelle Dupont, c'est la question de la distance cette fois, parce que souvent dans les jeunes couples parfois qui n'habitent pas ensemble ou même dans d'autres types de relations, mais quand on la vit là à distance et qu'on est de fait isolé à cause de ce coronavirus, on vit cette relation séparée et très éloignée. Là, c'est loin des yeux, loin du cœur.
Pas nécessairement en fait, c'est-à-dire que effectivement la question de la distance là elle est d'actualité pour tout le monde. Il y en a trop ou il y en a pas assez. Après, dans les couples qui se retrouvent à simplement pouvoir échanger par texto ou par vidéo une ou deux fois par jour, moi je crois que le désir se nourrit de la distance et que finalement chacun va pouvoir faire aussi le bilan et se retrouver après. Alors si le couple
mais comment on fait
est
comment
très,
on fait
très récent, c'est parfois
comment
difficile.
On fait comment on garde le lien comment évidemment les SMS évidemment les FaceTime etc mais comment on fait pour construire quand on est si éloigné et qu'on est peut-être un couple naissant.
Alors, je pense qu'on dialogue déjà, on dialogue beaucoup, et puis rien n'empêche de faire des projets pour l'après, de parler des envies qu'on a pour après. Et puis, ça va être une épreuve pour le couple. Est-ce que effectivement, on a réussi à surmonter 2 mois de distance et on a toujours la même envie de se retrouver? Et pour certains couples, ce sera non. Mais comme disait Catherine Solano, c'est une épreuve de vérité de toute manière pour tous les couples, parce que pour d'autres couples, ce sera oui avec beaucoup de hâte et peut-être des conflits à gérer du fait de la séparation, parce que chacun dans son émotionnel va le vivre bien à certains moments et mal à d'autres. Donc, donc là, je pense qu'il faut mettre beaucoup, encore une fois, de bienveillance et, comme disait Catherine, d'intelligence relationnelle pour parler, communiquer énormément et peut-être réapprendre à se parler différemment.
Alors, est-ce qu'on s'embrasse? Vous allez réfléchir à ça, mesdames, et Catherine Solano, et me répondre dans un petit instant, parce que, bien sûr, normalement, on est censé s'approcher le moins possible. Est-ce qu'on a le droit encore de s'embrasser ou pas quand on vit sous le même toit? D'abord, la famille Barassou qui nous appelle de Villeneuve-d'Ornon, à Bordeaux, là, ou tout proche, en tout cas en Gironde. Je salue d'ailleurs particulièrement la région ce soir. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vanessa, hein, c'est vous, hein,
oui,
la maman.
Tout à fait, oui.
Voilà. Alors, comment ça se passe, vous? Vous n'êtes pas mariée, hein, si mes informations sont correctes. Vous
Exactement.
Avez une petite maison avec un jardin et un petit garçon de 3 ans, une petite fille de 18 mois. Bah, ça, c'est pas de tout repos. Comment vous fonctionnez, vous?
Alors, ben, nous, déjà, on a subi, comme tout le monde, le confinement. Donc, on s'est très, très vite adapté, puisqu'on a vite compris qu'on n'aurait pas le choix. Et du coup, c'est mon conjoint qui s'est mis en arrêt maladie pour garder les enfants, puisque moi, je dois continuer le télétravail tous les jours. Et donc, avec deux enfants en bas âge, fallait de suite trouver une entente et passer le mieux possible tous ensemble ces journées très longues, avec deux enfants en bas âge.
Et oui. Et oui. Alors du coup, vous avez trouvé des petites astuces, je crois, des vidéos humoristiques, des palliatifs. Qu'est-ce que vous conseillez?
Alors ben nous, ça nous a permis déjà de se rapprocher énormément parce que dans la vie de tous les jours, ben on était un peu surménagé avec le fait d'aller chercher les enfants, de les amener à l'école, de les récupérer, de faire le travail, de rentrer tout ça. Donc là, pour ça, ça nous a enlevé vraiment un gros poids. Et pour occuper toutes nos journées, ben pour mon conjoint, ça a été vite vu. Il fallait qu'il fasse l'école le matin. Et il a décidé de donner le sourire à mes enfants chaque jour pendant le confinement en se déguisant tous les matins, en imitant des professeurs chaque jour.
D'accord, bon ben voilà, ça c'est une vraie astuce. Merci beaucoup à vous Vanessa, continuez. La famille Barassou à Villeneuve-d'Ornon, on vous salue ce soir, la Gironde et toute la France. On se retrouve dans un instant, mesdames Catherine Solano, Marie-Estelle Dupont, avec d'autres conseils à donner à nos auditeurs, amour et confinement, comment on fonctionne, comment on fait, est-ce qu'on s'embrasse encore ou pas? À tout de suite.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h et ce soir on parle du couple, on s'intéresse à vous, à nous, à nos vies de confinés, comment ça se passe à la maison, notre rapport à l'autre. Vous êtes nombreux à témoigner sur Twitter ou au 3921, Nathalie.
Alors Théophile Cossa, bonsoir.
Bonsoir Nathalie.
Bienvenue à vous. Alors en cette période de confinement, les applis de rencontre, elles n'ont pas franchement stopper leurs activités, contrairement à ce que l'on aurait pu croire. Elles observent même un trafic bien plus élevé que la normale. Oh là là.
Et oui, on ne peut plus se rencontrer, mais on peut toujours chatter. Ouais. En ce moment de confinement, vous savez, nos réseaux sociaux tournent à plein régime et ça n'exclut pas les sites et les applis de dating, vous savez, le terme anglais à la mode pour dire rencontre. Chez Mythic, par exemple, après un net ralentissement des échanges et des inscriptions dans les jours suivant l'annonce du confinement, l'activité est tout de suite repartie à la hausse, comme me le racontait Héloïse Desmontiers, directrice générale de Mythic France.
Ce qui est intéressant, c'est que très vite, pile une semaine après l'annonce du confinement, on enregistre, donc le dimanche 22 mars, un record de nombre de messages échangés sur Mythic. Depuis, on constate que, en effet, le niveau d'échange reste assez élevé et on constate aussi que les inscriptions sont reparties à la hausse.
Voilà, un engouement qu'Héloïse Desmontiers explique pour deux raisons. Le besoin de lien social d'abord et le rapport au temps.
Il est évident que dans ces périodes de grande solitude, nos services peuvent apparaître comme un moyen d'échanger quotidiennement avec des gens, d'aussi d'imaginer l'avenir, de penser quand on se verra, de se projeter. Et aussi, vraiment, la notion du temps. On était dans une société de l'urgence, aussi pour le dating. On regarde des profils en s'amusant, on prend même pas le temps d'aller en profondeur étudier les profils, trouver la bonne accroche pour séduire l'autre. Et le fait d'avoir le temps aujourd'hui, on se rend compte qu'en fait, on prend le temps de répondre même si la personne nous en intéresse pas forcément, on prend le temps de creuser un peu plus.
Alors, révolution dans le dating et dans notre façon de draguer. Chez Mythic, on préfère pour l'instant rester prudent et exclure toute idée d'effet d'aubaine. La rencontre par application, c'est devenu extrêmement banal. On n'a pas besoin du confinement pour aller bien, me confiait Héloïse Desmontiers. L'objectif pour le site maintenant, continuer avant tout à accompagner ses clients célibataires en mettant en ligne, par exemple, des vidéos coaching avec une love coach, une coach de l'amour, qui donne ses conseils de drague à distance, spécial confinement.
On va parler dans un petit instant avec vous, mesdames Marie-Estelle Dupont et Catherine Solano, aussi des couples par intermittence, de l'adultère, dans une petite seconde. Mais d'abord, Aude est avec nous. Bonsoir, Aude.
Bonsoir.
Bienvenue sur Europe 1. Vous avez des enfants de quel âge, Aude?
Moi, j'ai une fille de 10 ans et un grand de 15 ans.
Bon, alors ils sont quand même à peu près autonomes. Quoi qu'il en soit, est-ce que vous arrivez à avoir des moments d'intimité?
C'est compliqué.
Ah.
c'est compliqué parce qu'ils sont, on habite dans une maison de plein pied, donc déjà c'est compliqué de les de les isoler, les enfants. Et donc voilà, faut ruser.
Et me permettre. Et du coup, ça crée des tensions ou comment ça se passe? Vous arrivez à équilibrer en dialoguant? Vous fonctionnez par, je sais pas, subterfuge? Comment vous procédez?
Un peu les deux, en fait. Il y a de la communication, il y a du dialogue et puis il y a du subterfuge aussi.
D'accord. En gros, vous nous dites vivement la fin du confinement aussi pour retrouver un équilibre dans votre intimité. Outre oui, tous les aspects, évidemment, dont nous sommes privés. D'accord. Merci à vous, Aude, de votre appel. C'est vrai, Marie-Estelle Dupont, la question que je me posais, et puis j'entendais Théophile Cossa, je voulais réagir aussi un petit peu à ça. Mm-hmm. Les applis, on voit, ça fonctionne. L'adultère, comment ça se passe? Parce que il y a des couples qui fonctionnent beaucoup là-dessus, et enfin, en tout cas, l'un dans le couple qui, parfois, ne tiennent que parce qu'il y a de l'adultère.
Oui, moi, je comme expérience, je vois des couples...
C'est que dans le confinement, en fait, tout...
Ah, alors attendez, parce que là, on va pas...
Collègue.
Non, allez-y, l'une après l'autre, allez-y, vous avez commencé.
Donc j'ai commencé à répondre.
C'est pas grave, alors reprenons, allons-y.
D'accord. Non, je disais que la particularité du confinement, c'est que ça a fait passer tous les couples, quels qu'ils soient, d'une dynamique de désir à une dynamique de conjugalité, où il faut se conjuguer, c'est-à-dire avoir le quotidien. On a plus cette distance de séduction. Et je pense que si y a une recrudescence aussi sur les applis, c'est que c'est un moyen pour les gens d'avoir l'impression qu'il y a encore une petite dimension de séduction dans leur vie, qui est très importante pour nourrir le désir. Et c'est difficile que le désir se nourrisse quand il n'y a pas du tout de distance et qu'on est ensemble confinés toute la journée. Donc, je vais peut-être passer la parole à Catherine qui voulait parler de l'adultère.
Oui. Alors Catherine, allez-y.
Mais je voulais simplement dire que moi j'ai eu des témoignages de femmes qui disent mon mari sort voir sa maîtresse. Hein. Donc tout le monde ne reste pas confiné. Je vais vous dire, ça m'a un peu sidérée vu la période parce que c'est quand même dangereux. Oui. Et cela dit, je pense que la plupart des personnes sont quand même conscientes du risque de sortir et de côtoyer d'autres personnes. Et donc, je pense qu'il y a des personnes qui se sentent coincées. Et je pense aussi qu'il y a des personnes qui vont redécouvrir leur conjoint et se dire, c'est peut-être pas si mal si j'ai choisi cette personne pour l'épouser ou pour vivre avec elle ou avec lui. C'est peut-être que c'est quelqu'un qui a des bons côtés aussi. Parce qu'étant donné que ça nous change totalement de situation, ça bouscule complètement nos habitudes, en fait, en termes de sexualité, ça peut aussi introduire des changements très intéressants.
Écoutez, tout ça, c'est assez positif.
Oui,
on va donner la parole. Allez-y, terminez. Marie-Estelle.
Non, je pense que la personne qui témoignait là, qui semblait quand même un petit peu fatiguée d'avoir ses deux ados tout le temps près de son couple, peut-être qu'il y a certains soirs dans la semaine, tout bêtement, où elle pourrait décaler, je sais pas, peut-être qu'elle a déjà essayé, dire on dîne pas ensemble, c'est-à-dire que vous les jeunes vous dînez avant ou ce soir vous faites une soirée cinéma, et puis se recréer un tête-à-tête comme finalement avant le confinement, quand tous les jeudis soirs on allait avec son conjoint au restaurant pour scinder un petit peu les générations à certains moments et recréer des temps où papa et maman ne sont pas disponibles, pour que papa et maman puissent aussi débriefer sur l'organisation du lendemain.
Et oui, voilà, donc ça fait partie des conseils.
Oui, il faut savoir demander. Je dirais qu'il faut aussi savoir dire aux enfants quand ils sont petits, nous on est des parents mais on est aussi des amoureux, on a besoin de temps pour nous, et quand ce sont des adolescents c'est pas évident, c'est délicat, mais en même temps on peut leur dire, vous savez, on a besoin de temps tous les deux, on vous a pas fait en se regardant dans les yeux et en regardant un film, donc on a besoin de temps pour nous. Il s'agit pas d'exposer sa sexualité mais de montrer qu'on est aussi un couple, pas seulement une famille, c'est très important je pense.
Alors on va continuer avec nos auditeurs. Jeanne de Paris, bonsoir Jeanne.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, vous avez, vous, trois enfants, donc c'est du sport aussi. Comment ça se passe sous votre toit?
Alors là, c'est assez compliqué parce que nous sommes confinés trois semaines, là, on rentre dans la quatrième semaine, donc là, on est un petit peu à la on découvre tout ça et c'est vrai que c'est... C'est un peu dur, mais on a la chance, on a un petit balcon, donc on essaie d'être un peu dehors. Et on essaie de faire plein d'activités parce que les enfants, ça y est, sont en vacances. Mais ça reste quand même assez sportif, quoi, des fois. Et puis, il y a des moments un peu durs, Donc, c'est vrai que c'est une période pénible à passer.
Vous êtes comment au niveau de votre couple? Comment ça se passe? Parce que c'était la thématique du soir. Comment ça se passe? Vous arrivez quand même à vous garder des petites plages pour vous, dîner tous les deux, réussir à regarder un film? Vous arrivez à vous organiser? Je crois que c'est bien de matérialiser aussi, vous nous direz après, Marie-Estelle Dupont ou Catherine, si c'est bien de matérialiser, de se mettre des espèces de timing, d'emploi du temps même pour ces moments-là. Vous, Jeanne?
On arrive, oui, dans un sens, parce qu'on a quand même notre appartement, il est assez spacieux, donc du coup, on peut quand même avoir, s'isoler un peu, et puis les enfants, ils ont leur espace, et nous, on a notre espace, donc c'est vrai que ce côté-là, ça va, on arrive à avoir notre temps pour nous, ce qui est important, et puis il faut que les enfants comprennent aussi, hein, c'est ça. Les parents qui ont besoin du temps pour eux, donc on arrive à
séparer tout ça. Eh oui. Merci beaucoup, Jeanne, de votre appel. On va se quitter, mesdames, mais Catherine Solano, Marie-Estelle Dupont, vous, finalement, quand j'entends un petit peu là tout ce qu'on s'est dit, on voit qu'il y a plutôt des choses positives qui ressortent de ce confinement pour le couple. Encore un mot de chacune rapidement. Un conseil, vraiment, oui. Le conseil phare.
Alors, j'ai bien aimé ce que vous avez dit, qu'il faut s'organiser. Et je dirais, y compris pour la sexualité, se dire demain soir, jeudi, on va faire l'amour, on fait manger les enfants séparément, comme dirait Marie-Estelle. Et c'est très important dans un couple de savoir faire ça.
C'est pas glamour, mais ça peut marcher dans ces temps particuliers.
Si, allez, encore c'est un très mot. Glamour.
Ah bon, d'accord. Alors, allons-y, concluons.
Bah oui, c'est un rendez-vous. En fait, on prend rendez-vous avec son amant, donc ça peut être très glamour. Je crois que les repères temporels, faut pas les voir comme de la rigidité. Faut se dire que quand on est stressé, confus et fatigué, ça prend le relais en fait, et qu'il nous allège de trop de rumination, de trop de disputes.
D'accord. Bon, alors voilà, on prend son emploi du temps et puis on fait des petits cœurs dans les cases, imparties au groupe. Exactement, voilà, je crois que c'est parlant et puis ça fera pas peur aux enfants. Merci beaucoup, mesdames. Merci, Catherine Solano, à votre livre, Le Grand Livre de la Puberté, et Marie-Estelle Dupont, Se libérer de son moi toxique. Merci beaucoup, mesdames. Merci à nos auditeurs et à nos témoins ce soir. Merci à toute l'équipe. Merci aux soignants. Vous entendez ces applaudissements. C'est chaque soir. On vous les propose en direct, comme tout le reste d'ailleurs. Les chroniques, les rendez-vous, les interviews, tout cela est en direct fabriqué par une équipe formidable avec laquelle j'ai la chance de travailler. Merci à vous tous. On se retrouve demain 18h-20h à un nouveau grand journal du soir confiné. Salut à tous les amis, belle soirée.